BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a ce dossier qu'on pensait provisoirement refermé. Tout est relancé dans le dossier Atos. David Layani, le patron de Winepoint, se retire de l'affaire. Est-ce que ça veut dire que Daniel Kretinsky peut revenir par la fenêtre, comme on dit? On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. La campagne des législatives, on va continuer à débroussailler les programmes économiques des différents partis ce soir. On vous racontera notamment comment le programme fiscal du Rassemblement National risque surtout de rater sa cible et faire beaucoup d'heureux du côté des héritiers, des rentiers et de pas mal de ménages aisés. On verra ça tout à l'heure à 18h30 avec nos experts qui seront là, bien sûr. Avec eux, on dira aussi un mot du fameux débat Trump-Biden qui aura lieu dans un peu plus de 24 heures. Premier grand temps fort de cette campagne américaine. Voilà le programme. Auparavant, 18h10, c'est le patron d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Voilà le programme, donc très bonne soirée jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc oui, revoici, alors contre toute attente, le dossier Atos. Mesdames, messieurs, bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Je dis contre toute attente parce qu'on pensait que c'était en partie bouclé, sauf qu'on l'a appris ce matin, bah oui. Le consortium Winepoint, mené par Winepoint et son patron David Layani, se retire de l'affaire. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu, exactement?
Écoutez, David Layani n'était pas le seul à reprendre Atos. Il était associé, finalement, au candidat le plus important et à l'arbitre de cette restructuration, c'est-à-dire les créanciers d'Atos, ouais, qui, en acceptant d'annuler une large partie de leurs dettes, allaient devenir actionnaires d'Atos. Et donc, c'est eux qui avaient choisi, finalement, David Layani, qui, dans son projet, n'avait que 21% du capital. Sauf que le week-end dernier, alors même qu'il était en train de négocier l'accord final avec ses créanciers-là pour le signer cette semaine, il a tenté, entre guillemets, un coup de force en essayant de renégocier cet accord de base qu'il avait accepté avec eux il y a maintenant à peu près 15 jours. Et les créanciers, sûrs de leur pouvoir, ont refusé. Et donc leur alliance a explosé en vol. Alors c'est compliqué puisqu'on était quand même dans un timing assez serré pour que Atos boucle sa restructuration. David Layani aussi avait un associé qui s'appelle Walter Butler, qui est bien connu dans le monde français des affaires, dont lui... On avait du mal à lire ses intentions exactes. Il devait, il y a 2 mois, investir 50 millions d'euros dans Atos. Et puis, on entendait ces derniers jours qu'il n'investirait plus que 10 millions. Bref, on sentait qu'il reculait, ou en tout cas qu'il hésitait à rester associé à David Layani. On entendait même qu'il avait rencontré le rival de David Layani, Daniel Kretinsky, pour peut-être nouer une autre alliance. Bref, il y avait un jeu un peu trouble autour de lui. Donc, entre l'équation financière fragile du projet de David Layani et ses associations un petit peu interrogative, cette alliance a finalement explosé en vol le week-end dernier.
Bon, donc David Layani est hors du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à un retour? Parce que c'est la question de Daniel Kretinsky désormais.
Écoutez, Daniel Kretinsky, il est là. Voilà, il est là depuis un an, il le dit, il attend qu'on vienne le chercher. Il a fait une offre qui est beaucoup plus radicale et beaucoup plus sévère à l'encontre des créanciers. Le problème, c'est que ce sont les créanciers, encore une fois, d'Atos qui vont choisir. Et pour le moment... Ouais. Vu qu'ils n'ont pas souhaité faire d'efforts financiers en faveur de David Layani, il est difficile d'imaginer qu'ils en fassent davantage pour Daniel Kretinsky. La seule question qui reste, c'est les créanciers d'Atos, qui sont majoritairement des fonds d'investissement anglo-saxons, sont-ils capables de reprendre Atos seul, de mettre en place une nouvelle gouvernance, un plan stratégique? C'est toute la question qui va devoir être maintenant réglée rapidement, puisque si rien n'est fait d'ici 6 semaines, ou même 5, fin juillet, il y a de fortes chances que le dossier Atos parte en procédure de sauvegarde, et là, ça sera une autre histoire.
Bien, donc dossier qu'on pensait avoir refermé, mais je pense qu'on va en reparler dans les prochaines semaines.
Oui,
évidemment. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 18h04 en France. Mauvaise nouvelle, le moral des ménages continue de baisser. En juin, il est descendu à 89 contre 90 en mai, d'après l'INSEE. Il faut dire que depuis quelques semaines, le contexte politique n'est pas très enthousiasmant. Et ça, on devrait le sentir en regardant ce qui va se passer du côté des soldes qui ont donc officiellement commencé ce matin. Pauline Tadevin.
Près de 9 commerçants sur 10 se disent inquiets ou désabusés quand ils ne sont pas en colère ou déprimés, d'après une enquête du SDI, le syndicat des indépendants. 70% des sondés disent avoir des problèmes de trésorerie. Ils déplorent une nouvelle fois que les soldes arrivent 2 à 4 semaines trop tôt, d'autant que la météo n'a jusqu'ici pas poussé les clients à l'achat. Le chiffre d'affaires des magasins d'habillement a baissé de 3% aux boutiques et de 5% sur Internet entre janvier et fin mai, selon l'Alliance du commerce. La situation politique n'aide pas. C'est la première fois que je vois ce niveau d'inquiétude et de colère, déplore le patron du SDI, qui établit un lien direct avec la dissolution pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs. La perspective des législatives freine la consommation, selon 45% des commerçants interrogés dans son enquête. Dans ces périodes d'incertitude, une partie des clients a tendance à attendre, confirme le patron de la Fédération Procos, qui espère quand même que le retour du soleil, les JO et l'affluence des touristes dans les grandes villes aideront à inverser un peu la tendance.
Un bon parcours des Bleus en équipe de France du côté de l'Euro de foot en Allemagne, évidemment, ça peut toujours servir. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Tiens, tenez, puisqu'on parle foot, on voulait vous faire écouter le patron de la Ligue de foot, Vincent Labrune, auditionné au Sénat tout à l'heure. C'est qu'on est à 2 mois de la reprise du championnat, qu'il n'y a toujours pas de diffuseur officiel pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Vincent Labrune confirme en tout cas qu'il est prêt à lancer sa propre chaîne à 20 ou 25 euros par mois. Mais ça dépendra. Écoutez le patron de la Ligue.
Canal+ a fait savoir, dans le cas présent, depuis quelques temps déjà, qu'il ne serait pas candidat à notre appel d'offres. On travaille. On a travaillé depuis septembre 2022. Un an avant le lancement de l'appel d'offres, à consulter, à démarcher, à essayer de trouver des solutions alternatives. On n'a pas réussi. Pour l'instant, je prends ma part, bien évidemment. Je croyais qu'on fait notre maximum. C'est compliqué, mais il y a un chemin. Il y a un chemin qui sera sans doute moins bénéfique pour les clubs si on n'arrive pas au final à trouver un arrangement avec Canal+. Mais il y a un chemin qui est tout simplement celui de faire d'une contrainte théorique une opportunité en prenant notre destin entre nos mains et en essayant de créer notre propre média.
Voilà Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, auditionné cet après-midi devant le Sénat. 18h07, on va sur les marchés.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva. Salva le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Étienne Brack, Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. Comment ça s'est passé ce mercredi à la Bourse
Bonsoir.
De Paris?
Du rouge, deuxième séance dans le rouge pour le CAC 40 qui est sur des plus bas d'une semaine à un cheveu des 7600 points, 7609 points, une baisse de 0,7%. CAC 40 qui est toujours plombé comme hier par Airbus. Hein. Souvenez-vous, la valeur avait perdu 10% après un profit warning. Là, le titre perd à nouveau 2,8% à 130 euros. À noter hors CAC 40 que Atos s'effondre de plus de 6% avec David Layani qui se retire du dossier. 1,12€ ce soir à la clôture. À noter que vous avez encore des sociétés qui avertissent sur leurs résultats. C'est le cas de Alphen, spécialiste des banques de recharge à Amsterdam, qui s'effondre de quasiment 50% ce soir à la clôture. Hier, c'était Trigano qui n'avait pas réussi à rassurer concernant ses perspectives. La valeur avait perdu 6%. La semaine dernière, c'était Plastivaloir. Donc, vous voyez, à l'approche de cette fin de premier semestre, vous avez quand même des sociétés qui sont très prudentes et donc un marché qui est toujours très attentiste en attendant les différents scrutins législatifs en France. Moins 0,7% donc ce soir pour le CAC 40 à 7609 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 0,1%, 39 150 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,3%, 17 775. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est donc le PDG d'Aéroport de Paris, Augustin Dromanet, qui est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente... Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler évidemment des Jeux Olympiques parce que nous sommes à un mois, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture. Bonsoir Augustin Dromanet.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, vous êtes patron de l'aéroport de Paris et évidemment vous êtes complètement au cœur de ce dispositif pour les Jeux Olympiques. Mais il y a beaucoup d'autres questions à vous poser, aussi le trafic aérien avec Paris qui est un petit peu à la traîne par rapport au reste de l'Europe. Mais vous êtes aussi président d'Europlace, cette dissolution, est-ce que cette instabilité politique dans lequel nous nous trouvons depuis le 9 juin, est-ce que ça a un impact, est-ce que vous l'observez sur la place financière de Paris? Et je vais rappeler que vous êtes un des organisateurs de la dissolution du 7 avril 1997, parce que vous étiez à l'Élysée à cette époque.
J'étais au ministère des Finances à cette époque.
Ah, au ministère des Finances, je crois que vous étiez à l'Élysée.
Le moment venu, il sera temps d'expliquer ce qui s'est passé il y a 27 ans. Oui. Bon, aujourd'hui, écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions d'investissement qui sont suspendues, puisqu'il existe en effet une situation d'incertitude qui est plus grande aujourd'hui que celle qui existerait s'il n'y avait pas d'élection législative. C'est tout à fait juste.
Et donc, ça veut dire combien? Enfin, c'est beaucoup, pas beaucoup?
C'est très difficile de le qualifier, mais c'est vrai que toutes les personnes qui nous appellent au téléphone ou qui interagissent avec nous sur des décisions d'investissement commencent par nous demander de la pédagogie sur la situation et nous expliquent qu'ils attendent avec impatience la situation post-élection législative.
Oui, mais ils vous disent on est sur le mode pause, on est sur le mode plutôt, bon, bah écoutez, on va reporter notre décision sine die.
Non, c'est sur le mode bienveillant, circonspect et inquiet.
Oui. Est-ce que vous êtes inquiet du coup ?
J'ai une très grande confiance dans la force de nos institutions et je crois que nos compatriotes sont très raisonnables, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser le moment venu quelles sont les contraintes financières dans lesquelles se trouvera le gouvernement, quel qu'il soit. Malheureusement, nous avons un niveau de dépenses publiques qui ne nous donne plus de marge de manœuvre pour augmenter significativement la dépense publique. Nous avons un niveau de prélèvement obligatoire qui est un des plus élevés au monde, qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'augmenter. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'une prise de conscience nationale de nos atouts pour que un narratif de progrès, de concorde et de perception de sentiment d'égalité puisse réemporter le pays dans un dynamisme positif.
Enfin, là, il est un peu trop tard, hein, pardonnez-moi, là, il fallait le faire avant.
Non, mais il n'est pas trop tard du tout. Ouais. Nous avons devant nous un pays dans lequel nous devons redonner de l'énergie et de la bonne humeur.
Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques sont percutés par cette crise politique? Dans tous les cas, c'est un peu ce que disait Anne Hidalgo. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le redoutez?
Alors, en tant que nous sommes aujourd'hui en train de nous entraîner tous les jours pour bien accueillir les passagers, nous ne ressentons pas du tout d'interférence. Maintenant, si vous me posez une question qui excède mes compétences, c'est-à-dire au niveau national...
Oui, vous êtes un des acteurs quand même.
Ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas d'incertitude. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'accueil de tous les athlètes et les accrédités dans les aéroports, les choses se déroulent bien.
Oui. Est-ce que pour vous, le fait, parce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, hein, quand même, c'est important, la question de la sécurité, vous avez fait beaucoup d'efforts à Roissy ou à Orly, est-ce que pour vous, le fait que le ministre de l'Intérieur dise, moi, de manière, je démissionne dès que, voilà, dès le résultat des élections, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous lui dites, allez, coucou, il y a les Jeux Olympiques?
Je n'ai pas de commentaire à faire sur un choix politique qui...
Oui, non, mais l'impact de la sécurité, vous avez un choix à faire. Vous avez un commentaire à faire.
Oui, ben, il y a un préfet de police qui s'appelle Laurent Nunez, il y a un préfet d'Île-de-France qui s'appelle Marc Guillaume. Il y a un État qui fonctionne, donc je crois qu'il faut faire confiance aux institutions.
Vous n'êtes pas inquiet sur la conséquence que ça peut avoir sur la sécurité, en sachant qu'en plus, on rentre peut-être, enfin, en tous les cas, c'est ce que disent certains, dans un climat politique sous tension, on va dire.
Oui, mais je pense qu'il faut pas prévoir le pire à longueur de journée.
Je sais pas, c'est la ministre des Sports l'avez entendu comme moi aussi ce matin. Hein.
Non, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Non, mais je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais je crois que nos compatriotes sont responsables et ils sont attentifs au fait que la France accueille bien le monde, quelles que soient les tensions qui pourraient résulter des élections législatives.
Oui, ça c'est un petit peu de la langue de bois, non, Sandra Monnet?
Est-ce que c'est de la langue de bois, Madame Chevrillon, d'éviter d'ajouter de l'ennui à l'ennui? Est-ce que vous ne voyez pas que nos compatriotes sont aujourd'hui inquiets et tendus? Raison pour laquelle il me semble très important de souligner les atouts de notre pays et le fait que ces oppositions que tout le monde se plaît à craindre ne sont pas inévitables. Je ne vois pas pourquoi on se gobergerait, on se répéterait d'une idée que c'est la guerre civile, etc. etc. C'est insupportable. Je crois que les Français ont droit à passer des bonnes vacances, ont droit à accueillir les Jeux Olympiques dans des bonnes conditions, et c'est sûrement pas sur moi qu'il faut compter pour aller tricoter le pullover de l'inquiétude ou de l'attention. Je crois que nous avons des compatriotes qui sont très très désireux de bien accueillir les Jeux Olympiques. Il y va de la réputation de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je suis définitivement en train de regarder le verre à moitié plein.
Eh bien, il en faut bien un, vous avez raison, peut-être ça sera vous, et vous êtes sur ce plateau, Augustin de Romanet. Alors, regardons les choses positives. La ligne 14, enfin prolongée jusqu'à Orly, c'était un engagement avant les Jeux Olympiques, au moins celui-là, vous l'avez. Est-ce que c'est plus qu'une décision, parce que c'est une réalité qui est importante, à votre avis, pour le succès des Jeux Olympiques sur le plan transport, de votre point de vue?
Oui, c'est une réalité qui est très importante à beaucoup d'égards. D'abord, le premier égard, c'est rendre hommage aux visionnaires qui, il y a 8 ou 9 ans, se demandaient s'il fallait, même plus encore, c'était l'époque de Michel Rocard, s'il fallait faire ce qu'on appelait la ligne Éole, Est-Ouest, ou la ligne Météore Nord-Sud. Et on opposait l'une et l'autre. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que les deux lignes sont indispensables. Cette ligne 14, elle a été réalisée en temps et en heure. Il faut rendre hommage aux équipes de la RATP, de la Société des Grands Projets, plus modestement de l'ADP, qui a réalisé la gare d'Orly. La Société Grands Projets nous avait confié cette maîtrise d'ouvrage. L'engagement du président de la RATP qui a stimulé Alstom pour nous donner les rames en temps et en heure. Donc c'est vraiment un collectif pour que nous soyons au rendez-vous des Jeux qui nous ont évidemment beaucoup stimulés.
Alors est-ce qu'aujourd'hui ça se passe mieux? Parce que c'était lundi, là on est mercredi, et il y avait un couac sur le nouveau ticket numérique à 10,30€ qui est nécessaire pour rallier justement ou quitter l'aéroport en métro. Et en fait il y a des tas d'usagers qui ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait, donc ça a été très compliqué. Vous avez lancé là une campagne de communication. Est-ce que ça se passe mieux ce soir?
Oui, ça se passe mieux ce soir. Alors, c'est pas nous qui lançons la campagne de communication, c'est la responsabilité d'un établissement public administratif qui s'appelle Île-de-France Mobilité. Néanmoins, évidemment, nous les aidons. Nous les avons tellement aidés, c'est-à-dire que nous avons vu qu'il manquait de distributeurs automatiques dont nous en avons acheté nous-mêmes, comme nous avions acheté des paraffes. Ce qu'il faut dire aujourd'hui à tous nos compatriotes passagers, c'est qu'il faut qu'ils achètent le plus possible leur ticket à l'avance. Vous le savez, Île-de-France Mobilité a décidé que le ticket serait un tout petit peu plus cher que la ligne de métro normale. Et donc, si on veut avoir un ticket à l'avance, on peut le prendre sur son application. Il y a Apple a sorti une application qui permet d'acheter son billet électroniquement. Et il est vrai que dans cette gare d'Orly, vous ne pouvez pas acheter de ticket physique. Il faut obligatoirement soit aller à un distributeur, soit recharger votre passe, soit utiliser votre passe Navigo normal.
Oui. Et en fait, pourquoi? C'est pour forcer le destin numérique? Pourquoi on ne peut pas acheter un billet simplement?
Je pense que c'est la projection dans un monde qui sera tout à fait numérique. Oui. C'est un choix qui ne nous appartient pas.
Oui. Est-ce que pour vous, de votre point de vue, ce qui vous appartient, est-ce que vous êtes complètement prêt aujourd'hui?
On est complètement entraîné.
C'est pas la même chose.
C'est pour ça que je vous réponds vous répondrai qu'on est prêt le jour où on aura réussi. C'est-à-dire que nos équipes sont remarquablement entraînées. Nous avons fait plus d'une centaine d'heures d'entraînement dans 20 sessions. Vous savez, le monde de l'aéroport, c'est un monde dans lequel on est très méticuleux et on se donne souvent des périodes d'entraînement. Là, on n'a pas le droit de se dire qu'on va faire un rodage. Ce sont les 3 jours de l'arrivée, les 3 jours du départ des Jeux Olympiques, les 3 jours d'arrivée, les 3 jours de départ des Jeux Paralympiques. Donc, ou on est prêt le jour même, ou alors c'est un échec. Donc, il faut être prêt le jour même. C'est la raison pour laquelle nous nous entraînons. Aujourd'hui, je suis un peu inquiet parce que toutes les compagnies aériennes ne jouent pas le jeu. Vous voyez, par exemple, nous avons réalisé un énorme investissement pour faire ce qu'on appelle un enregistrement au village olympique, dédié au village olympique, avec un terminal spécial pour les athlètes. Ceci suppose que les compagnies aériennes collaborent avec nous et acceptent que les athlètes soient traités dans un circuit spécial. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai que 57% des passagers, couverts par une trentaine de compagnies, qui font l'objet d'un accord des compagnies aériennes pour entrer dans ce dispositif. Donc, j'ai écrit personnellement à toutes les compagnies aériennes, et si elles m'entendent aujourd'hui, je leur dis que je les tiendrai pour personnellement responsables si la délégation dont elles ont la charge a des ennuis à l'aéroport en ne bénéficiant pas du système que nous avons spécifiquement réfléchi et pensé depuis 18 mois.
Et vous avez alerté le COJO
Nous sommes en relation quotidienne avec le COJO. Oui. Et donc, chacun sait qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de compagnies aériennes réticentes sur lesquelles il faut rappeler...
Lesquelles? On peut savoir les noms?
Non, ce serait vraiment du name and shame inutile à cette heure-ci.
Oui. D'accord, mais c'est important de dire qu'elle ne joue pas le jeu sur ce plan-là. 65 000 athlètes, hein, quand même, vous allez recevoir. Oui. colossal. Et ça concerne 57% des compagnies aériennes. Il y a combien d'athlètes qui risquent d'être un peu en vadrouille?
Mais moi, je crains que... Alors, 64 000, c'est le nombre d'accrédités.
Oui.
Le nombre d'athlètes. Mais moi, même 3 000 athlètes en vadrouille, pour moi, c'est beaucoup trop. Mmh. Je ne veux pas avoir 3 000 athlètes qui se retrouvent au terminal 2E, au milieu des autres passagers. Avec, parce que ce que disent les compagnies aériennes, c'est disent, oui, notamment les compagnies européennes, elles disent que tous les bagages hors format vont arriver par automobile ou par camion. Et donc, ces passagers n'auront pas de bagages compliqués. Mais ce n'est pas vrai. Un athlète, il a 4 ou 5 sacs de sport. Et donc, je ne veux pas que ces passagers soient maltraités.
Ouais, donc ça, c'est un point très important que vous nous dites là. Tiens, à propos de difficultés, de complexité, vous avez vu cette réaction du patron d'Air France KLM, Ben Smith, qui dit « Attendez, arrêtez les passerelles à Roissy, il y a trop de passerelles qui nous font... » Non, au contraire, il n'y a pas assez de passerelles, ce qui fait qu'on est obligé de prendre des bus, de se trimballer un peu partout. Pour les clients d'Air France, c'est un vrai problème. Vous lui répondez quoi? Que vous êtes en train d'acheter des passerelles?
Oui, alors il m'est revenu effectivement depuis plusieurs semaines, le président d'Air France n'a pas toujours des paroles gracieuses à l'égard d'ADP dans les roadshows, etc. Bon, écoutez, je prends ça très bien parce que le président d'Air France, le directeur général d'Air France, Ben Smith, est extrêmement soucieux de la qualité de service. Et ce qui l'angoisse, c'est le passager qui vient en autobus. Je ferai deux observations. Premièrement, qui affecte les avions à Charles de Gaulle? C'est Air France. Donc c'est la compagnie Air France qui décide si tel avion va au contact ou si tel avion va au large et devrait être desservi par bus. Premièrement. Deuxièmement, il est vrai que nos installations ne permettent pas d'accueillir 100% des avions au contact, parce que nous n'avons pas assez de postes au contact. Raison pour laquelle nous envisageons d'étendre nos terminaux. Mais vous le savez, pour étendre nos terminaux, il faut des autorisations environnementales, il faut des autorisations préfectorales, et lorsqu'on évoque l'idée de l'esquisse du projet de faire un nouveau terminal, nous avons également à convaincre les écologistes que nous n'attendons pas à la vie de la planète. Donc c'est pas aussi facile que ça à régler. Monsieur Smith le sait très bien, nous en parlons souvent, et la seule chose que je peux dire, c'est que je rends hommage à son souci de la qualité de service.
Le trafic aérien, on n'a pas encore les chiffres évidemment du premier semestre, hein, ça va venir dans quelques jours, mais on voit déjà que l'Europe, ça se porte pas trop mal, mais que Paris est un peu à la traîne par rapport au reste de l'Europe. Comment vous expliquez ça ?
Nous avons effectivement un trafic qui croît depuis le début de l'année de plus 5 à 6 % alors qu'à Heathrow, à Istanbul, à Francfort, ça croît un peu plus vite. J'attribue ça principalement à la faiblesse du trafic Asie-Pacifique, d'une part, et à la baisse du trafic domestique. Nous avons beaucoup de Français qui prennent moins l'avion et plus le train. Et puis, les lignes vers l'Asie ne sont pas encore totalement rétablies. Vous savez que je me bats parce que je souhaiterais qu'on ait plus de connectivité avec la Chine. Et cette connectivité, aujourd'hui, elle n'est que de l'ordre de 55 à 60% de ce qu'elle était au moment du Covid.
Oui. Le trafic domestique, il a baissé de combien ?
Il a baissé de 5-6 %.
Oui. Oui, donc finalement, l'impact, on s'en souvient, ici, vous avez fait une déclaration extrêmement forte, Augustin Dromanet, vous avez dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion. C'était une manière de dire...
Non, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il fallait être sobre.
Il fallait être sobre et vous avez dit il faut arrêter de prendre l'avion.
Non, voilà. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de prendre l'avion, sinon je sacrifie.
C'est ce que certains.
Je sacrifie une liberté très importante pour les humains. Non, je pense qu'il faut.
C'est
il faut
une manière d'alerter.
Non, je pense qu'il faut, accepter. L'écologie. Il faut accepter, parce que ce n'est pas parce que vous faites un métier qui est l'hospitalité dans les aéroports que vous devez pousser à la roue pour toujours augmenter le nombre de voyages. Chacun sait que la décarbonation et le zéro émission net en 2050. Va exiger que le taux de croissance du transport aérien soit plus faible que ce qu'il était avant le Covid. Ça, c'est clair.
Oui. Il y a aussi une question aujourd'hui sur le fret aérien, mais on n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a... Vous avez vu le profit warning hier, assez violent, hein, du reste de Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui dit, bah voilà, aussi simple, il y a trop de demandes, on ne peut pas tout livrer, il y a un problème de cadence. Est-ce qu'il y a une demande trop forte d'avions?
Je pense qu'il n'est pas possible, en économie de marché, de dire qu'il y a une demande trop forte d'un bien ou d'un autre.
Oui.
Ce qui est clair, c'est que la demande est suffisamment forte pour qu'il y ait un problème d'offre, et notamment tout ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire les sous-traitants, ceux qui produisent les moteurs, ceux qui produisent les réservoirs, ceux qui produisent des trains d'atterrissage, ne peuvent pas suivre nécessairement. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes n'ont pas suffisamment d'avions à mettre en ligne pour ne serait-ce que cet été, on aura parfois des lignes sur lesquelles on sera en sous-capacité, puisqu'il y a une demande qui excède l'offre.
Oui. Et comment on résout ça ?
Ben, on résout ça. D'abord, moi, je rends hommage à la sincérité du président
d'Airbus qui
dit la vérité. Et d'autre part, on le résout en étant très attentif à la solidité des sous-traitants et au fait qu'ils puissent avoir une solidité financière telle qu'il n'y ait pas d'à-coups dans leur production.
Et on a commencé par ça, sur l'impact sur Paris Aéroplace, l'impact sur la cérémonie d'ouverture, sur ADP, l'impact sur votre succession, Augustin Dromanin, mais pas que votre succession, parce qu'on sait que vous avez dit que vous partiez le 31, au plus tard, le 31 décembre 2024, à la fin de cette année, puisque vous n'étiez pas reconduit. Mais là, il y a aussi la succession de Jean Castex, est-ce qu'il va se succéder à lui-même à la tête de la RATP, la succession aussi de Farandou à la tête de la SNCF, parce qu'il faut, d'accord, c'est Emmanuel Macron qui décide, mais après, derrière, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Donc le jeu, il devient très compliqué.
Oui. Avant les élections et après les élections, la situation des institutions est la même. C'est le président de la République qui nomme, après non-opposition de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il n'y ait pas d'opposition des deux tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Oui, c'est ça. Donc, s'il y a une majorité relative, un peu plus que relative, ça veut dire que l'Assemblée nationale, il y a des chances qu'elle dise non par rapport à une proposition du président. Il se passe quoi dans ces cas-là ?
Ben, comme dans toutes les cohabitations précédentes, il y a une discussion qui s'instaure entre le président de la République et le Premier ministre, ouais, et la majorité relative qui est en place, ou absolue, pour que la continuité de la direction des entreprises publiques en cause soit assurée. Ouais. Parce que on ne peut pas se permettre d'avoir une entreprise publique importante comme la RATP, la SNCF ou ADP qui ne soit pas entre les mains d'une personne responsable.
Ça va vraiment se compliquer là aussi, hein, en tous les cas, on peut dire ça comme ça. Votre deadline, c'est le 31 décembre, vous partirez avant ?
Non, la seule chose qui est importante, c'est l'intérêt de l'entreprise.
Oui.
Et donc, si j'avais indiqué que je souhaitais partir le 31 décembre, c'était pour préciser que je ne souhaitais pas m'incruster au risque de jouer la montre pendant 2 ans, ce qui serait peut-être bien pour moi, mais sûrement pas bien pour l'entreprise.
Oui, peut-être que ça aurait été mieux, en tout cas, vu la situation. Merci beaucoup, Augustin Romanet.
Merci,
président d'Aéroports de Paris. Président d'Aéroports de Paris, à un mois, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture. Bons Jeux Olympiques.
Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts première partie sont là. Audrey Tcherkov est là, bien sûr. Audrey, bonjour.
Bonsoir, Guillaume, bonsoir à tous.
Et puis nos experts, ils sont là, bien sûr. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Bienvenue.
Il remet sa cravate.
Fidèle à ses habitudes.
Il se prépare.
Il y a une gestuelle.
À débattre.
Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. On est avec Frédéric Bianchi, journaliste de BFMBusiness.com. Bonsoir. Et puis Frédéric Simotel qui va arriver dans un instant pour évoquer ce qui était le nouveau coup de théâtre dans le dossier de la reprise d'Atos. Parce que qu'est-ce qu'on a appris ce matin ? On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Pecheberti. Nouveau rebondissement, finalement, le consortium mené par OnePoint et son patron David Layani, qui l'avait emporté à 3 semaines, se retire finalement de l'affaire.
Oui, alors d'après les informations de BFM Business, c'est donc dimanche que les choses auraient commencé à déraper, puisque David Layani aurait tenté d'arracher des concessions aux créanciers. Ça, c'était pas prévu. Et d'après son entourage, il aurait trouvé un trou supplémentaire dans la caisse de 500 millions d'euros. Évidemment, c'est beaucoup. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, cette situation ? Parce que je pense que c'est un retournement auquel personne ne s'attendait. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir ?
Frédéric, je ne sais pas, tour de table là-dessus, rapide, qu'est-ce qui a bien pu se passer chez Atos ?
Ah ben, je vais donner la parole
à l'expert.
Comment s'en sortir ?
Emmanuel Le Chypre.
Vous n'attendez pas Fred Simotel ?
On l'attend, moi, il devait arriver, il n'est pas là.
Il a commencé par un autre sujet.
Bruno Coquet. Non, mais parce que Bruno Coquet, sur Atos, quand même.
Enfin, c'est le vaudeville.
Oui, alors,
mais c'est incroyable. Choix, la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Quoi. Donc,
il va falloir en faire une série Netflix, ça c'est clair.
Oui, voilà, c'est clair. Mais en fait, depuis le début de cette affaire, moi, à chaque fois, je regarde ça d'un peu loin, mais quand même, à chaque fois, on entend que les comptes ne sont pas clairs.
Oui.
C'était le point d'origine de la baisse du cours depuis les 80 euros. C'était des problèmes de comptables dans les filiales américaines. Et aujourd'hui, on en est toujours au même point. C'est encore des. On découvre tous les jours dans les comptes des choses. Et dans l'offre de Kretinsky qu'il avait faite il y a quelques temps, il y avait ça quand même. Il y avait de dire ben, moi, je veux quand même une espèce de vérité des comptes. Il y avait des réserves liées au fait de qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement découvrir dans ça.
Alors, et c'est notamment pour ça, rappelez-vous, que Airbus s'était retiré après 18 mois de négociations parce qu'en effet, eux, ce qu'ils disaient, c'est que c'était finalement une coquille vide avec des savoir-faire qui étaient partis et des comptes qui étaient très opaques malgré donc une due diligence qui aurait duré un an et demi.
Non mais c'est dommage cette opacité juste avant de donner la parole à Frédéric qui est une vraie expertise sur le sujet. Ouais. C'est que Winepoint et Atos, il y avait des synergies.
Mais oui,
on est quand même dans un même domaine d'activité, on est dans des services informatiques relativement complémentaires. C'est dommage, Frédéric est en train de me contredire de la tête, pour ceux qui nous écoutent en radio vous ne le voyez pas, mais voilà, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu cette transparence sur les comptes et cette honnêteté parce qu'il y aurait peut-être eu moyen de créer un grand champion au moins des services informatiques.
Bon Frédéric, est-ce que vous dites que Kretinsky va revenir dans la bataille et que donc peut-être, on ne parlera peut-être pas tant que ça, vous qui nous parlez depuis le début du projet industriel avant tout, c'est tout à fait normal évidemment.
Ouais, c'est un peu ça, c'est pour ça, je réagissais juste sur les histoires de métier. D'un côté on a quelqu'un qui sait très bien faire du conseil, Point, et de l'autre, on a quand même des ESN de la Fougère. C'est un métier un peu différent quand même. Et là, il faut les compétences, il faut...
La différence, c'est la complémentarité aussi, peut-être, potentiellement.
Ouais, mais si on fait l'un, il faut vraiment qu'on ait les compétences, pour faire l'autre. Et là, quand on dirige une société de conseil, aller diriger une société une ESN derrière, où on va faire... alors, on sait qu'il y a une partie qui va partir vers l'État, tout ce qui est cyber, tout ce qui est service d'État, mais tout ce qui est infogérance, c'est quand même... un autre métier, il faut d'autres compétences, faut réussir à faire attirer des talents, faut récupérer, alors évidemment récupérer tous ceux qui sont déjà là, chez Atos, mais il faut essayer de trouver, quelques autres talents pour redonner un peu les grandes lignes un peu du nouveau projet. Et puis sur, je reprends un peu les propos de Mathieu Pechperti, aujourd'hui, Daniel Kretinsky revient dans la course, mais pas que, les créanciers aussi pourraient aussi repartir de leur propre chef. Alors on sait qu'il y a beaucoup de lorsqu'on connaît un peu tout cet univers des ESN, il y a beaucoup de patrons, d'anciens patrons de ESN qui ont été contactés pour venir apporter. Mais ce qui manque là,
c'est... Il y a eu 3 DG en 2 ans, Frédéric, on peut en faire
mais ce qui manque, c'est qu'il faut arriver, c'est un peu comme dans les startups, on prend l'exemple de Mistral, faut pas arriver avec 10 millions, 8 millions, 20 millions, faut arriver avec 100, 200 millions, quoi. Enfin, faut vraiment pour relancer tout ça aujourd'hui, et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est non seulement, il y a quelques opacités dans les résultats, mais là, il faut vraiment mettre de l'argent sur la table pour redresser tout ça, puis surtout il faut aller ouvrir tous les placards, parce que dans les contrats il y a beaucoup de contrats qui rapportent pas de marge, qui ont été signés il y a des années, qui continuent à tourner, qui sont avec une marge qui n'est pas vraiment forte, et là le but des ces entreprises c'est quand même ça rapporte, et je pense que Daniel Kretinsky il a compris ça bien entendu, et lui et ce qu'il veut c'est remettre de l'ordre un peu dans tous ces contrats, c'est revoir un peu les niveaux d'engagement sur l'infogérance, remettre du cloud par-dessus tout ça, enfin il y a cette partie industrielle qu'on oublie un peu vite. C'est vrai qu'il y a le projet financier, mais le projet industriel est important. Et là,
mais alors, deux questions, Frédéric, par rapport à ce que vous venez de dire. Un, je ne comprends pas pourquoi la responsabilité du président Mustier n'est pas plus remise en cause, parce que quand même, qu'est-ce qu'il fait depuis son arrivée ? Force est de constater, pas grand-chose. Et par ailleurs, avec des comptes qui ont des trous dans la raquette à chaque fois. Et deuxième question, si les créanciers reprenaient, là dans les offres et de Kretinsky et de Layani, il y avait évidemment une partie d'injection en cash et un effacement de la dette. Oui. Alors, comment est-ce que ça se passerait si c'était uniquement les créanciers qui reprenaient Atos ?
Eh ben, ils devraient quand même, perdre un peu de leur dette puisqu'ils pourraient pas récupérer. Après, ou alors on se relance sur du long terme pour relancer les contrats. Atos, c'est quand même une société internationale. C'est quand même eux qui opèrent les Jeux Olympiques pour la partie cyber notamment. Ils sont présents dans aux États-Unis avec leurs filiales. Ça aussi, il faut y penser. Ces filiales américaines, pensez à Sintel, pensez qu'ils ont une activité en Inde, alors qui est pas aussi importante que son concurrent Capgemini. Mais enfin, il y a quand même je dirais pas des pépites. Mais enfin quelques sociétés qui peuvent auxquelles on peut redonner un peu d'élan. Après le Jean-Paul Murcier, il est pas très clair dans tout ça.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il est venu un petit peu en ambassadeur, c'est ça quelque part.
Mais avec un vrai rôle opérationnel
Il est président. Alors
il est président non exécutif.
C'était celui qui sera un peu qui aura un peu de recul et puis qui pourrait un peu guider tout ça.
Oui, voilà.
On voit qu'en fait c'est un peu lui qui remue, qui tient un peu les les ficelles. Et là encore, il est balancé entre un projet financier, l'industriel, on ne sait pas trop qu'en faire. Ouais. On a quand même une société qui est sous l'objet des projets, enfin sous les projecteurs, parce que c'est une société, il y a beaucoup d'intérêts nationaux. Hein. On sait que voilà, Atos est quand même assez présent dans de grands contrats nationaux, ouais, auprès de grandes entreprises aussi, parce que ça, faut pas l'oublier, hein, Atos a parmi ses clients de très grandes entreprises. Et elles aussi, elles sont en train de regarder. Alors, sur le terrain, beaucoup disent que ça se passe, entre guillemets, plutôt bien, c'est-à-dire
ça délivre,
business as usual, ça délivre, mais avec quand même une inquiétude, quoi.
Tant mieux, parce qu'ils sont impliqués notamment dans les Jeux Olympiques.
Non, et puis même dans tout un tas de tournois, et j'imagine les commerciaux qui doivent vendre tout ça. Et puis il faut pas oublier qu'aujourd'hui on a un grand virage qui est en train d'être pris, c'est l'intelligence artificielle. Alors, même si encore on se pose beaucoup de questions sur le business model pour gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, il faut quand même avancer. Il ne faut pas oublier que les autres sont en train de...
Oui, il y a un virage à prendre.
Hein. D'un mot, vraiment, échéance de 6 semaines, nous disait Mathieu tout à l'heure, avant une éventuelle procédure en justice, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. On va vite reparler éventuellement. On a envie de savoir si Daniel Kretinsky revient dans le jeu ou pas. C'est ça que ça veut dire, finalement.
Bah, il n'en a jamais été très loin. Hein. Je pense qu'il se doutait un peu de ce qui était en train de se passer. Après, il faut voir. Et c'est vrai, vous avez insisté sur le rôle de Jean-Pierre Mussier qui est assez pas trouble, parce qu'il ne faut pas lui prêter.
Non, mais qui pose quelques questions.
Voilà, qui pose quelques questions, savoir quel est vraiment son rôle dans tout ça.
Voilà, donc pour ce dossier Atos, qu'on avait un petit peu mis de côté provisoirement, puis voyez,
on est en train. Voilà, on pensait que c'était bouclé. Pas du tout.
Pas du tout.
Ouais. Sinon, du côté de la campagne des législatives, bon, donc il semblerait que ça ne soit pas non plus complètement bouclé. On se replonge donc dans les programmes. Alors d'abord une question, que vous a inspiré évidemment la séquence d'hier soir à la télévision sur la réforme des retraites et l'explication de Jordan Bardella qui a suscité quand même une certaine confusion?
Oui, parce qu'il expliquait que du fait de ce que voulait faire le RN, c'est-à-dire ramener progressivement l'âge de départ à un âge pivot de 62 ans, je vous interrogerai aussi là-dessus, avec 42 ans de cotisation, il a pris l'exemple d'un jeune qui commence à travailler à 24 ans, mais qui partirait donc à 66, ce qui a fait hurler un peu partout. Est-ce que ceux qui ont hurlé n'ont pas confondu âge légal de départ et âge à taux plein, finalement? Est-ce que Bardella était un peu cohérent dans ses explications,
On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, François Mitterrand, et là, il faut sortir de l'ambiguïté, il faut commencer à rentrer un peu dans le dur de concrètement qu'est-ce que vous allez faire. Et évidemment, on s'aperçoit que la réforme des retraites, eh bien, elle n'est pas aussi simple qu'on part tous à 60 ans.
C'est-à-dire, en fait, dans ce qu'il dit, il n'y a rien de...
Non.
Il n'y a rien de faux.
Non.
Et on sent bien, d'ailleurs...
Vous voyez les journalistes sur le plateau qui se mettent à hurler 66 ans.
Oui, c'est ça. Mais... C'est-à-dire qu'en fait, on pourra dire tout ce qu'on voudra, mais c'est de cohérent. Cette séquence...
Il y a un petit parti pris.
Il ne ressort qu'une seule chose, c'est 66 ans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il dit... C'est que, effectivement, si un jeune commence à travailler à 24 ans et qu'il cotise 42 ans, jusque-là, faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre que ça vous fait bosser jusqu'à 66 ans. Déjà, s'il avait mieux maîtrisé le dossier, à mon avis, il aurait pu dire que, mais attendez, on serait dans le cadre d'aujourd'hui avec la réforme Macron.
Ce serait 67.
Votre jeune qui...
Il a fini par le dire, d'ailleurs. Il a fini par le dire.
Oui, alors il a fini par le dire, c'est vrai. Mais votre jeune qui arrive à 24 ans, il partirait plus tard. Et effectivement, on voit bien que
on
lui tombe sur le poil à cause des 66 ans, du genre, c'est pire qu'avant. Ouais. C'était un peu ça le truc.
Donc on a confondu âge légal de départ et âge à taux plein. C'est ça, Bruno, finalement, là, sur le coup.
Le taux plein.
Parce que je dis les choses comme ça, notre confrère ne réagit pas en disant 66 ans. Je ne sais pas s'il y a tout le barouf qu'on a vu derrière après, finalement.
C'est impossible. Aujourd'hui, le taux plein automatique, c'est 67 ans.
Oui.
Après ça, la vraie réforme, on en a parlé pendant 3 mois l'année dernière, c'est la réforme à points. C'est fondamentalement ce qui compte, c'est le nombre de trimestres. Et donc, c'est autour de ça.
Donc, 42 annuités.
Oui, bien sûr, c'est autour de ça que vont s'organiser les prochaines réformes. C'est autour de ça que tournait la réforme à points, hein, et des trimestres étant des points, mais avec un autre nom, c'est là-dessus que ça tombe. À mon avis, ce qui n'est pas souligné dans la proposition du Rassemblement national, c'est qu'il y a une expression qui dit « c'est des vrais emplois ». Donc du coup, ça exclut ceux que j'aime bien, les apprentis. Ça, c'est j'ai pu lire que c'était exclu, mais ça peut exclure aussi des jobs un peu bizarres, subventionnés, des emplois aidés, des choses comme ça. Donc ça, il faut regarder d'assez près, parce que ça peut faire beaucoup de trimestres, hein, d'une certaine manière. Et après ça, que tout le monde converge on augmente de toute façon, à part pour quelques personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont potentiellement des carrières longues et une forte exposition au chômage. Là, on concède une redistribution, c'est-à-dire parce que c'est aussi ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible vers un départ plus précoce. Mais globalement, l'espérance de vie augmente, l'âge de sortie du système scolaire augmente. Mécaniquement, on se décale et tout ça serait beaucoup plus lisible si on était juste avec des trimestres comme critère de départ, quitte à avoir. Après, ce qui serait discuté, c'est la pente de la pénalité, si on a un trimestre en moins, de la décote.
Mais après, ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a aucun programme ne va jusqu'au bout du raisonnement sur l'équilibre du régime des retraites. C'est-à-dire qu'en gros, vous considérez que vous allez abaisser l'âge légal de départ, je pense que le chiffre qu'il faut retenir, c'est en gros, vous bougez le curseur d'un an.
C'est 15 milliards.
C'est 15 milliards. Voilà, 15 milliards. Donc grosso modo, là, vous baissez de 2 ans, ça fait 30 milliards. Donc la question qui se pose, c'est quand même, où est-ce qu'on va aller les chercher? Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites travailler beaucoup plus longtemps, soit vous baissez les pensions, soit vous essayez de rééquilibrer démographiquement. Alors, on voit bien que la solution du RN, c'est de repeupler la France avec un sursaut de natalité, mais dont on ne voit pas très bien d'où il pourrait venir. Il y a l'immigration, mais ça, le RN n'en veut pas. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de cohérence. Et même si vous poussez la logique jusqu'au bout, vous voyez que, si on en croit le dernier rapport du COR, même la réforme Macron ne suffit pas à équilibrer le système.
Oui, c'est vrai. Mais
Donc, vous voyez qu'en fait, la question des retraites, finalement, par quelques programmes que vous la preniez, il y a encore le métier à remettre.
Bien sûr, la question du financement notamment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans les arguments du RN sur comment est-ce qu'on finance tout ça, ils disent, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, on a un budget à l'équilibre. Et quand on pousse un peu plus, ils disent, mais de toute façon, tous les chiffres sont disponibles puisque ce sont ceux qu'on avait partagés en 2022. Mais sauf que ils sont plus du tout d'actualité, ces chiffres-là.
Oui, confère, allez regarder dans mon programme 2022, parce que moi personnellement je ne le connais pas. Voilà, c'est un petit peu le discours. Enfin, en tout cas, cette réforme des retraites, l'abrogation de la réforme de l'année dernière, elle est conditionnée. C'est bien ce que dit Jordan Bardella. L'audit des comptes, on le connaît. Hein, on connaît des déficits, on connaît l'état de la dette, on connaît l'état des dépenses publiques, on le connaît. Bon, admettons.
Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des documents qu'il n'a pas accès? C'est l'argument.
Peut-être. Bon, c'est peut-être comme chez Atos. Il y a peut-être des loups dans les.
Ah ben, j'espère que c'est pas comme chez Atos. C'est
des choses dans les placards. En tout cas, voilà, les comptes, on les connaît suffisamment aujourd'hui pour savoir que le système des retraites est déjà en déficit malgré le report de l'âge. La seule certitude qu'on a, c'est ce dispositif carrière longue. Ça, là-dessus, il dit, moi, dès l'automne, hein, je crois.
Octobre,
dès l'automne, on passe à 60 ans pour les carrières longues avec, c'est combien? C'est 40 ans de cotisation.
C'est quoi? C'est 10 000 personnes par an, à peu près, quelque chose comme ça, Bruno?
D'abord, c'est très peu de monde.
Oui, c'est très peu. Oui.
C'est très peu de monde. Ensuite, est-ce que c'est juste? Il y a eu un rapport l'année dernière de l'Institut de politique publique, de l'IPP, qui a essayé de savoir un petit peu si les gens qui bénéficiaient de. Ça existe aujourd'hui, les dispositifs carrières longues. S'ils vivaient plus longtemps, ou moins longtemps, ou en moins bonne santé. Ben non. Parce que le rapport de l'IPP, il est très bien documenté. Il montre que les gens qui aujourd'hui bénéficient du dispositif carrière longue ont une espérance de vie égale, voire supérieure à ceux qui n'en bénéficient pas. Alors il y a des raisons. Ça veut dire qu'ils ont cotisé longtemps, qu'ils ont, durant leur carrière, eu moins de pathologies. Ensuite, c'est aussi des gens
qui ne travaillent dans un bureau ni climatisé ni trop chauffé.
Voilà. Il ne faut pas confondre carrière longue et métier pénible. Parce que des dispositifs pénibilité, il y en a. Carrière longue, ce ne sont pas que des métiers pénibles. Donc déjà, est-ce que ce dispositif-là, qui paraît juste sur le papier, il n'est peut-être pas tant que ça, en fait.
Non, mais c'est surtout.
Et il est très coûteux.
Carrière longue, ça veut dire que vous avez commencé tôt et qu'en gros, vous avez travaillé pendant les années où vous étiez en bonne santé.
Oui.
Donc, effectivement, c'est le vrai sujet. Plus que les carrières longues, c'est effectivement les carrières pénibles.
Bien, on va rester avec vous, Frédéric, parce que vous avez publié un papier très intéressant ce matin sur le site bfmbusiness.com dont on voulait reparler. En gros, l'idée, c'est de dire le programme fiscal du Rassemblement National. On se dit, à première vue, il est censé venir en aide, soutenir le pouvoir d'achat, notamment des plus défavorisés, des populations précaires. Et vous nous dites, en fait, non, quand on y regarde de plus près, il y a des mesures fiscales qui vont privilégier les héritiers. Les rentiers, d'une certaine façon.
C'est aussi en lien avec ce que vous étiez en train de dire.
En fait, le problème, c'est que oui, certainement, les ménages modestes vont bénéficier aussi. Alors, on rappelle le programme, la mesure phare, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Donc, on rappelle carburant, électricité, gaz. Alors oui, les modestes en bénéficieront. Mais qui c'est qui va récupérer la plus grande part de ça? La question, c'est une question de justice sociale. Le RN, en baissant la TVA, arrose tout le monde.
Et quand on arrose tout le monde, eh bien ceux qui ont les plus gros seaux, si je puis dire, c'est eux qui récupèrent le plus d'eau. C'est d'ailleurs ce que disait l'année dernière, hein, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, qui disait que la baisse de la TVA sur ces produits-là, c'est un outil qui est ni efficace, ni équitable. Alors, efficace pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr d'abord que les prix baisseront, en tout cas sur le carburant. On l'avait vu avec la restauration. Alors, on peut dire le carburant, c'est pas pareil que la restauration.
Ah, okay. Vous voulez dire que les commerçants pourraient en fait profiter d'avoir des marges plus importantes ?
Ils peuvent prendre, mettons qu'on a la baisse de 15 points, le commerçant peut dire, j'en prends 7 au passage et je baisse de 8 et au final donc on donne de l'argent aux stations totales. Est-ce que c'est juste ? Pas forcément. Ensuite, qui c'est qui paye les plus grosses factures et qui c'est qui bénéficierait le plus de ces 15 points de cadeaux ? Ceux qui ont des SUV qui brûlent beaucoup d'essence, ceux qui ont des grandes maisons et qui ont des très grosses factures d'électricité.
La consommation est croissante avec le revenu, c'est ça l'idée.
Exactement, oui, c'est ce que dit le Conseil des prélèvements obligatoires. Donc au final, arroser tout le monde, dépenser quand même 12 milliards. Alors ça c'est le calcul de l'IFRAP, 12 milliards d'euros, le Bercy dit plutôt 17 milliards. Alors donner 17 milliards pour qu'une très grande partie aille dans la poche des gens qui n'en ont pas besoin. Est-ce que c'est une mesure efficace ? 17 milliards, c'est colossal. Quoi.
Alors surtout, en plus, Frédéric, on n'aurait plus le fameux signal prix qui est quand même essentiel pour la transition écologique. Alors,
sans parler de la question environnementale, évidemment. Ouais. Là, mettons simplement de côté, axons-nous sur la question de la justice. Ensuite, il y a l'impôt sur le revenu.
C'est intéressant.
Voilà, le Rassemblement national revient là-dessus. Donc, les moins de 30 ans ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors, la question de la constitutionnalité, mettons-la de côté, parce qu'évidemment, ce sera.
Oui, parce que pour le moment, ce n'est pas possible. Ouais.
Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste de faire en sorte que. Il y avait un calcul d'Astérès, cette fois, qui a calculé que 55% des moins de 30 ans n'en payaient pas.
Oui, déjà.
Donc, c'est les 45% les plus aisés. Et au sein de ces plus aisés, un quart paye 95% de l'impôt sur le revenu. Donc, on va faire un cadeau à qui ? Aux diplômés d'HEC, aux diplômés des grandes écoles de commerce, qui sortent de grandes écoles et qui gagnent déjà très bien leur vie.
C'est ce que Gabriel Attal a dit à Jordan Bardella hier soir.
Ce sont 3 milliards d'euros qu'on offre à des gens qui n'en ont pas besoin.
Et aux footballeurs, même.
Aux footballeurs, évidemment.
Imaginez que si Mbappé était resté au PSG cette année, il n'aurait pas payé l'impôt sur le revenu. Ça, faut comprendre quelque part.
De toute façon, il ne les payait pas.
Bruno, non, comment vous.
Ah bon ?
Ben non, parce que c'est compris dans le contrat.
Oui, c'est le PSG qui a payé ses propres
impôts. Oui, mais bon, c'est payé de fait quand même.
Donc, d'impôts,
il aurait pu gagner plus si le PSG ne lui avait pas payé ses impôts.
Voilà. Vous acquiescez, Bruno, qu'effectivement, le RN passe à côté de sa cible, finalement, sur le papier.
Moi, sur la mesure pour l'impôt sur le revenu des jeunes, c'est facile. Si vous êtes dans un ministère, que vous écrivez ce décret, vous plafonnez. Vous plafonnez l'avantage fiscal et comme ça vous remplissez votre promesse.
C'est ce qui va se passer d'ailleurs.
Et oui, c'est ce qui va se passer. Ça me semble totalement évident. Ça coûtera jamais 3 milliards. Ça concernera un petit paquet de gens. Après ça, la réponse de Jordan Bardella hier soir à Gabriel Attal, disant oui, mais le trader de 29 ans.
Oui, c'est ça.
Le trader de 29 ans versus le vrai répondre,
mais le trader de 29 ans, il est déjà à Londres. C'est pas une bonne réponse. Et donc, du coup, ces deux aspects font qu'on voit qu'ils rempliront leur promesse, ils la plafonneront et puis voilà, ça fera l'affaire.
Manuel.
C'est vrai que moi j'étais surpris parce que bon, demain je vous détaillerai. Là, on est en train de, vous savez, comme on fait à chaque élection, c'est-à-dire en gros, on calcule l'impact des programmes électoraux sur la croissance, l'inflation, le chômage, les déficits publics, les déficits extérieurs. Et alors en fait, en mettant vraiment les deux programmes face à face, parce qu'il y a eu longtemps cette idée, je sais pas si Fred est d'accord, que en gros il y avait deux programmes qui privilégiaient plutôt la demande. En gros, on renvoyait dos à dos un peu le programme du RN,
oui,
et le programme de la gauche en disant la France a un problème d'offre. Mais le programme du RN, c'est un programme très libéral, en fait, quand vous regardez. C'est-à-dire que tout ce qui fait l'essence d'un programme libéral, vous l'avez dans le programme du RN. Les baisses de cotisations sociales pour les entreprises, les baisses de dépenses publiques, la baisse des impôts, etc., etc.
Et ils vont même un peu plus loin sur certains sujets que le gouvernement actuel.
Donc, oui, et donc, vous verrez, j'ai fait les calculs, je vous les donnerai demain, parce qu'il a fallu. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, vous avez un programme à gauche qui est un programme systémique, c'est-à-dire qui par son ampleur change vraiment la nature de l'économie française, et le programme du RN qui est un programme cosmétique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous appliquez le programme du RN sur la trajectoire de l'économie française 2024-2027, donc jusqu'à la prochaine présidentielle, l'impact, il est extrêmement faible.
Mais alors, est-ce que vous êtes en train de dire que l'impact du nouveau Front populaire va être un impact positif ?
Non, alors il est parce que c'est pas ça. C'est qu'en fait, d'accord, dans les calculs, vous verrez, vous retrouvez toutes les caractéristiques d'une bonne vieille relance de gauche, c'est-à-dire un peu de PIB, mais plus de chômage parce que vous augmentez le coût du travail, plus de déficit extérieur parce que vous profitez quand même, vous favorisez les constructeurs chinois. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que le programme, quand vous verrez les résultats du programme de la gauche, en gros, il y a rien de masqué. C'est-à-dire que vous avez tous les résultats et vous avez les effets attendus d'une bonne vieille politique de gauche. Vous savez, vous allez. Le problème du RN, c'est qu'en fait, l'essentiel de l'incertitude, elle est hors bilan. C'est-à-dire, en gros, le vrai saut dans l'inconnu, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le programme du RN. Et parce que qu'est-ce qui va se passer avec les Européens? Qu'est-ce qui va se passer avec Bruxelles? Qu'est-ce qui va se passer sur la constitutionnalité? Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir prendre des mesures de rétorsion, de protectionnisme, etc. Et donc le saut dans l'inconnu, c'est quand même le programme du RN.
Non, juste d'un mot, baisser les impôts. On parle d'un programme libéral, très bien. Baisser les impôts, pourquoi faire? Si c'est pour favoriser l'investissement productif, l'investissement, la création, l'emploi, baissant l'impôt sur les sociétés, baissant les impôts de production, très bien. Mais si c'est pour faire en sorte que les gens qui ont 3 appartements à Paris, à 2 millions d'euros pièce,
la baisse des impôts de production, elle est dans le programme.
Et qui ne paient plus l'impôt. Oui, il y a la baisse des impôts de production, c'est le seul. Mais pourquoi se priver de ressources auprès de gens qui, par exemple, paient aujourd'hui l'IFI, demain, ils ne le paieront plus? Est-ce que c'est de l'investissement productif?
Oui, seulement. Est-ce que c'est rentable? Faire des cadeaux à des gens qui n'en ont pas besoin.
Vous le dites de façon un peu choquante. Le programme économique du RN, en fait, c'est Macron avec un peu moins d'Europe et un peu moins d'écologie. Voilà.
C'est pas à ça qu'on est arrivé comme conclusion.
Et un peu plus de rente aussi.
Et peut-être un peu plus de rente.
Allez, spoilez pas trop, ça sera demain. Ça sera demain matin, évidemment, sur BFM Business. Merci à tous les trois. Emmanuel Le Chypre, Bruno va revenir dans un quart d'heure, évidemment, jusqu'à 20h. Merci Frédéric, on vous lit évidemment sur le site bfmbusiness.com jour après jour. 18h58, on revient dans un instant.
Et oui, avec des sujets passionnants. Vous l'avez compris, on est en direct jusqu'à 20h.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, ce dossier qu'on pensait alors provisoirement refermé, le dossier Atos, tout est reparti puisque le consortium mené par David Layani se retire du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir Daniel Kretinsky revenir par la fenêtre? On va voir ça dans un instant avec Mathieu Pechberti, puis on en dira un mot avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
Bien sûr, nous allons débattre évidemment de la campagne des législatives. On va continuer de défricher les programmes pour vous ce soir et puis on reviendra notamment sur tout ce qui s'est dit hier soir lors du débat, notamment concernant les retraites et les impôts. Et puis on dira forcément un mot du premier débat qui va avoir lieu entre Trump et Biden, débat très attendu aux États-Unis, c'est dans moins de 24 heures.
Absolument, qui sera avec nous pour parler de tout ça, Bruno Coquet va revenir et puis les entrepreneurs Leonidas Kalogiropoulos et Denis Jacquet qui lui nous arrive des États-Unis. Bah, nous dirons ce qu'on parle de ce débat Trump-Biden, bien sûr. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc, revoici contre toute attente le dossier Atos. Bonsoir Mathieu Pechberti. Je dis contre toute attente parce qu'on pensait que c'était en partie bouclé. Or, on a donc appris ce matin que le consortium mené par Winepoint se retirait de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour commencer, Mathieu?
Écoutez, David Layani n'était pas le seul à reprendre Atos. Il était associé finalement au candidat le plus important et à l'arbitre de cette restructuration, c'est-à-dire les créanciers d'Atos qui, en acceptant d'annuler une large partie de leurs dettes, allaient devenir actionnaires d'Atos. Et donc, c'est eux qui avaient choisi finalement David Layani qui, dans son projet, n'avait que 21% du capital. Sauf que le week-end dernier, alors même qu'il était en train de négocier l'accord final avec ces créanciers-là, pour le signer cette semaine, il a tenté entre guillemets un coup de force en essayant de renégocier cet accord de base qu'il avait accepté avec eux il y a maintenant à peu près 15 jours. Et les créanciers, sûrs de leur pouvoir, ont refusé. Et donc leur alliance a explosé en vol. Alors c'est compliqué puisqu'on était quand même dans un timing assez serré pour que Atos boucle sa restructuration. David Layani aussi avait un associé qui s'appelle Walter Butler, qui est bien connu dans le monde français des affaires, dont lui... On avait du mal à lire ses intentions exactes. Il devait, il y a 2 mois, investir 50 millions d'euros dans Atos. Et puis on entendait ces derniers jours qu'il n'investirait plus que 10 millions. Bref, on sentait qu'il reculait, ou en tout cas qu'il hésitait à rester associé à David Layani. On entendait même qu'il avait rencontré le rival de David Layani, Daniel Kretinsky, pour peut-être nouer une autre alliance. Bref, il y avait un jeu un peu trouble autour de lui. Donc, entre l'équation financière fragile du projet de David Layani et ses associations un petit peu interrogatives, cette alliance a finalement explosé en vol le week-end dernier.
Bon, donc David Layani est hors du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à un retour? Parce que c'est la question de Daniel Kretinsky désormais.
Daniel Kretinsky, il est là. Voilà, il est là depuis un an, il le dit. Il attend qu'on vienne le chercher. Il a fait une offre qui est beaucoup plus radicale et beaucoup plus sévère à l'encontre des créanciers. Le problème, c'est que ce sont les créanciers, encore une fois, d'Atos, qui vont choisir. Et pour le moment, vu qu'ils n'ont pas souhaité faire d'efforts financiers en faveur de David Layani, il est difficile d'imaginer qu'ils en fassent davantage pour Daniel Kretinsky. La seule question qui reste, c'est les créanciers d'Atos, qui sont majoritairement des fonds d'investissement anglo-saxons, sont-ils capables de reprendre Atos seul, de mettre en place une nouvelle gouvernance, un plan stratégique? C'est toute la question qui va devoir être maintenant réglée rapidement, puisque si rien n'est fait d'ici 6 semaines, ou même 5, fin juillet, il y a de fortes chances que le dossier Atos parte en procédure de sauvegarde, et là, ça sera une autre histoire.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. On en parle bien sûr avec nos experts dans quelques minutes de ce dossier Atos. C'est donc le patron d'Aéroports de Paris, Augustin Romanet, qui était l'invité d'Edith Chevrillon tout à l'heure sur BFM Business. On va parler du trafic aérien. Sans avoir les chiffres du premier semestre, on voit que l'Europe ne se porte pas trop mal, mais Paris est un peu à la traîne apparemment par rapport au reste de l'Europe. Pourquoi exactement? Écouter les explications qu'il nous donnait tout à l'heure.
Nous avons effectivement un trafic qui croît depuis le début de l'année de plus 5 à 6%, alors qu'à Heathrow, à Istanbul, à Francfort, ça croît un peu plus vite. J'attribue ça principalement à la faiblesse du trafic Asie-Pacifique, d'une part, et à la baisse du trafic domestique. Nous avons beaucoup de Français qui prennent moins l'avion et plus le train. Et puis, les lignes vers l'Asie ne sont pas encore totalement rétablies. Vous savez que je me bats parce que je souhaiterais qu'on ait plus de connectivité avec la Chine. Et cette connectivité, aujourd'hui, elle n'est que de l'ordre de 55 à 60% de ce qu'elle était au moment du Covid.
Oui. Voilà, Augustin de Romanel, patron d'Aéroports de Paris, tout à l'heure sur BFM Business. En France, mauvaise nouvelle, le moral des ménages continue de baisser. En juin, il est descendu à 89. Très loin toujours de la barre des 100 qui est à sa moyenne de long terme. Les Français n'ont pas le moral et ça devrait se sentir en regardant ce qui se passe du côté des soldes qui ont donc officiellement débuté ce matin. Pauline Tadevin.
Près de 9 commerçants sur 10 se disent inquiets ou désabusés quand ils ne sont pas en colère ou déprimés, d'après une enquête du SDI, le syndicat des indépendants. 70% des sondés disent avoir des problèmes de trésorerie. Ils déplorent une nouvelle fois que les soldes arrivent 2 à 4 semaines trop tôt, d'autant que la météo n'a jusqu'ici pas poussé les clients à l'achat. Le chiffre d'affaires des magasins d'habillement a baissé de 3% en boutique et de 5% sur Internet entre janvier et fin mai, selon l'Alliance du commerce. La situation politique n'aide pas. C'est la première fois que je vois ce niveau d'inquiétude et de colère, déplore le patron du SDI, qui établit un lien direct avec la dissolution pour les commerçants mais aussi pour les consommateurs. La perspective des législatives freine la consommation selon 45% des commerçants interrogés dans son enquête. Dans ces périodes d'incertitude, une partie des clients a tendance à attendre, confirme le patron de la fédération Procos, qui espère quand même que le retour du soleil, les JO et l'affluence des touristes dans les grandes villes, aideront à inverser un peu la tendance.
Voilà pour ce début des soldes, Pauline Tadevin. Et puis voici une entreprise qui vient peut-être de toucher le jackpot. C'est le Danois Novo Nordisk, géant mondial, vous le savez, de la pharmacie. Pourquoi jackpot? Parce que son nouveau traitement contre l'obésité, le Wegovy, vient d'être homologué en Chine. Le potentiel sur place est absolument pharaonique. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business en Asie.
Avec 50% de sa population adulte considérée comme en surpoids ou obèse, la Chine s'est imposée comme le poids lourd pour les médicaments amaigrissants. Novo Nordisk, le géant danois, est présent en Chine depuis 2021 avec l'Ozempic, ce traitement au succès mondial, initialement destiné pour le diabète de type 2 mais détourné à des fins d'amaigrissement. En Chine, l'Ozempic règne en maître. Ses ventes ont doublé entre 2023 et 2024 et représentent 5% des ventes totales mondiales. Novo Nordisk lance désormais le Wegovy, son autre médicament vanté par les stars d'Oprah Winfrey à Elon Musk. Il contient la même molécule que l'Ozempic, à savoir la sémaglutide, mais lui est prescrit comme traitement pour la perte de poids. Mais le temps presse, car ce brevet détenu par le groupe danois sur la sémaglutide devrait expirer dans moins de 2 ans en Chine, et Novo Nordisk est également au cœur d'une bataille juridique qui pourrait lui faire perdre son exclusivité beaucoup plus tôt que prévu. De quoi aiguiser l'appétit des concurrents chinois prêts à dégainer les génériques et les biosimilaires. Sur ce marché, qui devrait atteindre près de 2 milliards d'euros d'ici 2030, la concurrence s'intensifie. L'Américain Eli Lilly a également obtenu il y a un mois le feu vert pour la commercialisation de son médicament contre le diabète.
Marion Zipfel, la correspondante de BFM Business en Asie. Puis on voulait vous faire écouter le patron de la Ligue française de foot, Vincent Labrune, auditionné au Sénat. Vous savez qu'on est à 2 mois, même pas, de la reprise du championnat, qu'il n'y a toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Vincent Labrune reste zen. Il a confirmé qu'il tablait toujours sur la création de sa chaîne pour diffuser le foot. 20-25 euros par mois, ça dépendra, écoutez.
Canal+ a fait savoir, dans le cas présent, depuis quelques temps déjà, qu'il ne serait pas candidat à notre appel d'offres. On travaille. On a travaillé depuis septembre 2022, un an avant le lancement de l'appel d'offres, à consulter, à démarcher, à essayer de trouver des solutions alternatives. On n'a pas réussi. Pour l'instant, je prends ma part, bien évidemment. Je croyais qu'on fait notre maximum. C'est compliqué, mais il y a un chemin. Il y a un chemin qui sera sans doute moins bénéfique pour les clubs si on n'arrive pas au final à trouver un arrangement avec Canal+. Mais il y a un chemin qui est tout simplement celui de faire d'une contrainte théorique une opportunité en prenant notre destin entre nos mains et en essayant de créer notre propre média.
Voilà, Vincent Labrune, le président de la Ligue de foot professionnelle aujourd'hui au Sénat. 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. CAC 40 qui perd ce soir 0,69%, 7609 points. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Étienne Braque avec nous. Wall Street, comment ça va?
C'est stable. Hein. Vous avez 3 indices américains qui ne font pas grand-chose. En attendant, le débat demain soir entre Joe Biden et puis Donald Trump. Et puis surtout des investisseurs qui attendent des chiffres d'inflation vendredi. Avec notamment certains membres de la Fed qui commencent à calmer un petit peu le jeu par rapport aux baisses de taux. Donc dans ce contexte, vous avez un S&P 500 qui est parfaitement stable à 5468 points. Le Dow Jones grappille 0,1%. Le Nasdaq, de son côté, prend 0,2% grâce notamment à Apple. Nvidia qui continue de faire le yo-yo, moins 6% lundi, plus 6% hier, moins 2% aujourd'hui. Donc tout ça, ça amène beaucoup de volatilité sur l'indice Nasdaq. Du côté des valeurs à souligner aujourd'hui, vous avez Whirlpool qui prend plus de 15% à Wall Street, alors que vous avez des informations de Reuters qui évoquent que Bosch, l'allemand Bosch, pourrait faire une OPA sur Whirlpool. Hein. Donc par rapport à cela, ça réagit du côté de Wall Street. D'autant plus que Whirlpool est en grande difficulté. Hein. Vous savez, c'est un titre qui est en forte baisse depuis le début de l'année, mais aussi depuis un an, de l'ordre de 30%, quand Rivian, de son côté, prend un peu plus de 15% aujourd'hui, avec notamment Volkswagen, qui va créer une co-entreprise avec Rivian, hein, qui est spécialiste de l'électrique. Donc, vous voyez, il y a des mariages qui s'opèrent afin d'accélérer dans ce segment, afin notamment de faire face à la concurrence chinoise.
Et on en revient toujours là. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h12. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses ce soir. Le retour du dossier Atos, on pensait avoir mis ça sous le tapis pour un petit moment. La réforme des retraites avec la petite séquence sur les 66 ans hier soir autour de Jordan Bardella à la télévision. On parlera aussi des impôts, on parlera de ses programmes. On parlera de ce programme du RN qui, fiscalement parlant, semble quand même privilégier pas mal des plus riches. Et puis on dira un mot, allez, on a le temps, de ce débat Trump-Biden dans 24-36 heures à peu près aux États-Unis. Ça aussi, ça promet. Tout ça jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Compétent un jour. Allez, 19h16.
Ils sont déjà dissipés.
Ah oui, mais ça commence en général. Ça commence dans la pub.
Il faudrait. On saisit un peu.
Heureusement que les micros sont fermés déjà, je vous dis. Parce que des fois, ça nous rend bien service. Bonsoir Audrey, rebonsoir.
Rebonsoir à tous.
Bien sûr, avec nous. Et puis nos experts qui sont là. Bruno Coquet est revenu. Rebonsoir Bruno, bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Denis Jacquet, PDG de Top Cream et auteur. Bonsoir Denis.
Bonsoir Guillaume.
Nous arrive d'Amérique.
Oh, le tonton d'Amérique.
Tout droit, from the USA.
Où il a vu des Américains, pour ceux qu'on la ref.
Et alors, du coup, j'ai quitté Miami pour New York, donc ça fait moins touriste exotique. Ouais.
C'est un beau bilan carbone, ça, quand même. Hein, c'est un beau bilan carbone.
Ouais, j'ai plus que 6 heures au lieu de 9 heures, donc je suis beaucoup plus frugal. Ouais.
Léonidas Kalogiropoulos, bonsoir, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors, on croyait qu'on avait mis de côté un tant soit peu le dossier Atos. Bah non, c'est ressorti ce matin.
puisque, bon, on l'a raconté, le consortium mené par Winepoint et son patron David Layani finalement se retire de l'affaire, Audrey.
Oui, alors d'après les informations de BFM Business, donc c'est dimanche que les choses auraient dérapé, puisque David Layani a voulu arracher des concessions aux créanciers, ce qui n'était pas prévu, et il y aurait aussi un trou supplémentaire dans la trésorerie de 500 millions d'euros. Une broutille, une paille. Non, mais c'est quand même intéressant.
L'État français.
Parce que, non, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cet énième rebondissement, mais qui est quand même tellement inattendu?
Moi, je pense qu'on a dit tellement de choses sur cette affaire. Il y a juste un point de vue que je voudrais partager avec vous, parce que je le trouve central. Une entreprise, c'est une collectivité d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours, et je voudrais juste avoir un mot presque de compassion
pour
ces 100 000 personnes, oui, qui vont travailler tous les jours, qui sont en train aujourd'hui même, tous les jours, nuit et jour, de travailler à la préparation des JO sur la sécurité, et qui regardent tous les jours leur journal et qui se disent mais qu'est-ce qu'on va devenir, c'est le ping-pong, le machin, enfin, c'est invraisemblable pour eux, pour l'entreprise, pour cette collectivité humaine.
Mais vous avez raison de le souligner, parce que tout à l'heure, justement, on précisait, en effet, que les dossiers sur le terrain étaient tout à fait bien délivrés et qu'il y avait une exécution
parfaite. Mais l'entreprise continue de marcher. Ouais. Je veux dire, ces gens sont des héros.
Faut se mettre à la place des commerciaux, c'est vrai.
Ils ont perdu leur stock option, faut pas l'oublier.
Ça, c'est clair.
Non, mais ils ont... Enfin, et la boîte continue, et eux continuent à être droit dans leur boîte, à exécuter, à délivrer. Et toute cette gymnastique perpétuelle entre les créanciers, les repreneurs, quelques acteurs aux jeux incertains et que je ne citerai pas, mais véritablement, je pense que je ne sais pas qui peut siffler la fin de cette récréation, mais j'imagine à quel point les salariés...
Ah bah c'est le tribunal de commerce qui a priori, il reste 10 jours. Hein.
Mmh. Oui, le temps est compté.
Denis Jacquet.
Il est temps que l'épilogue arrive.
Oui, Denis Jacquet, comment vous regardez ça?
Alors, moi j'ai deux, trois trucs que je sais, mais je ne peux pas trop les dire. Mais en tout cas...
vous en avez trop dit, ouais. Denis, vous êtes là pour parler.
C'est bien comme teasing, ça marche pas mal.
Vous ne causez pas d'ennui.
C'était pas mal. Quand il y a plusieurs étapes dans l'acquisition d'une société, quand vous êtes vraiment en phase finale, il y a des informations qui finalement vous arrivent, qui ne vous étaient pas arrivées jusqu'à la dernière minute. Bon. Et les dernières informations reçues, c'est que d'abord, ces deux, trois dernières années ont fait un dommage au-delà, effectivement, des personnes sur le business, avec des choses qui ont été plus ou moins bien maquillées, mais à un moment donné, le maquillage cède. D'ailleurs, il fait trop chaud, donc ça doit couler. Bon. Et donc, effectivement, Layani, enfin David que je connais bien, effectivement a dit à un moment donné, bon, de toute façon, si vous aviez eu Kretinsky, ce qu'ils vont peut-être finalement avoir, ils vous auraient arraché des concessions, faites-moi pour moi aussi. Ses propres actions ont été divisées par un certain multiple depuis qu'il les a achetées. Il faut faire un effort, parce que de toute façon, si vous perdez tout, vous perdez tout. Donc faites un effort supplémentaire. Donc la découverte d'un certain nombre d'éléments, je pense, a entraîné la décision. Et puis ils ont jeté l'éponge, parce que David Layani, ça fait des années qu'ils bossent sur ce projet, ils ont investi de l'argent, ils ont perdu potentiellement de l'argent jusqu'ici. C'est épuisant, un dossier de cette nature-là. Mais je pense que le fond de l'affaire, qu'on veuille se le dire ou non dans l'establishment français, c'est quand même l'histoire d'un égo démesuré qui sort du ministère des Finances, qui s'appelle Thierry Breton, qui veut se payer un monsieur qui s'appelle Hermelin, qui avait bâti entre-temps la plus belle boîte d'informatique européenne qui s'appelle SAP. Il s'est dit, moi, je suis Thierry Breton avec l'ego qu'on lui connaît et je vais faire beaucoup plus gros. Il sort du ministère des Finances, il trouve tous les investisseurs qu'une telle position vous permet d'avoir en disant, on va ramasser tout ce qu'il y a acheté sur le marché. Et il a passé, effectivement, cette boîte de 5 milliards à 17 milliards en quelques années. Il l'a porté en bourse,
débridé,
faisant le succès de tous ceux qui l'ont suivi là-dedans, qu'il considère comme un génie. Mais quand vous faites des acquisitions à mesure, il y a deux acquisitions. Il y a celles qui sont un château de cartes qui, au bout d'un moment, finit par s'écrouler. Puis il y a celles qui sont bien intégrées, qui se consolident et qui font une forteresse. Mais il a bâti un château de cartes et trois ans après, le château
alors,
de cartes
s'écroule. Alors, on précise, Denis, donc avec des rachats externes qui ont été mal valorisés.
Mal valorisé, mal intégré, avec des chapelles qui sont créées, des gens qui ne veulent pas bosser entre eux, des différences. Enfin, le plus dur au monde, le plus facile, c'est de faire le chèque. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à faire l'intégration de ceux que vous achetez.
Oui.
Enfin, aujourd'hui, encore chez Engie, il y a encore des combats entre les anciens de gaz de trucs.
C'est-à-dire que c'est très compliqué. Tant que Thierry Breton était là, on ne voyait qu'une tête et puis il n'y avait pas de divergence.
On voyait qu'une tête.
On a vu un petit peu ce qui s'est passé chez Renault quand Carlos Ghosn est parti. Voilà,
exactement. Et puis la vitrine était magnifique. On allait monter en bourse, la valorisation grimpait. C'est le danger de considérer que le succès d'une boîte, c'est le fait de faire grimper sa valorisation.
Bruno Coquet.
La dette n'était pas chère, c'était une phase ascendante. Moi, je pense que les premiers problèmes sont apparus avec des problèmes dans les comptes des filiales américaines.
Oui.
Les derniers problèmes, mais on est passé par toute une gamme de mécomptes dans les comptes d'Atos, c'est peut-être pas fini encore. Donc ça, je pense que c'est un gros problème. L'autre gros problème de la phase actuelle, c'est qu'il reste en fait l'infogérance, on ne discute plus que de ça.
Oui.
Et les clients qui sont coincés dans des contrats, ils sont là, mais il faut convaincre des gens qui vont s'engager à long terme avec Atos. Je pense que c'est ça le sujet des commerciaux aujourd'hui. Et dans la situation actuelle, je pense que ce n'est pas évident et qu'à chaque fois, on creuse un peu plus le trou.
Oui, mais juste parce qu'on comprend bien, en effet, la responsabilité de Thierry Breton, même si je trouve que ce dossier ne lui a pas vraiment fait ombrage, en tout cas jusqu'à présent. Mais quid des dirigeants qui l'ont succédé ? Enfin, il y a un président qui s'appelle Mustier qui est à la tête d'Atos depuis l'année dernière. Qu'a-t-il fait ou que n'a-t-il pas fait, plutôt ?
Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a eu... Le vaisseau a commencé à se fissurer, qu'il y a eu des appétits pour le racheter, forcément, c'est là où les informations qui étaient contenues jusqu'ici commencent à se diffuser. Et puis, tout à coup, la machine se dérègle, et puis tout à coup, on commence à vouloir la dépecer par morceaux, la partie publique d'un côté, puis l'État s'en mêle. Enfin, ça devient... J'arrive pas à trouver un mot très poli, un gros bazar.
Un soap opéra.
Sans nom. Et puis, à un moment donné, quand vous êtes face à Thierry Breton, qui est à l'Europe aujourd'hui, vous avez aussi du mal à déballer des choses que vous déballeriez face à quelqu'un qui est moins puissant aussi.
On entend le message de Leonidas qui dit effectivement il y a 100 000 salariés aujourd'hui qui en découvrent des vertes et des pas mûres tous les matins quasiment dans les journaux.
C'est dur pour eux, bien sûr.
Et c'est dur effectivement pour
eux. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est eux. Et je trouve ça très important parce que c'est effectivement toute la complexité de ce qu'est cette aventure entrepreneuriale. Ouais. Aujourd'hui, c'est 100 000 personnes qui travaillent et qui la font remplir ses obligations tous les
jours. Alors, l'autre sujet complexe du moment, évidemment, c'est la campagne des législatives. Donc, on va se replonger, évidemment, dans les programmes, notamment les programmes économiques. Alors, d'abord, une question. Que vous a inspiré la séquence d'hier soir à la télévision, notamment sur la réforme des retraites et l'explication donnée par Jordan Bardella, qui a quand même suscité une petite confusion sur le moment?
Ça a chauffé sur les réseaux sociaux dès hier soir. Vous savez qu'il a expliqué ce que voulait faire le Rassemblement national sur les retraites. Il a dit, donc, ramener progressivement l'âge de départ à un âge pivot de 62 ans avec 42 ans de cotisation. Donc il a pris l'exemple d'un jeune qui finissait ses études, qui commençait à travailler à 24 ans, pour expliquer qu'il partirait donc à 66 ans. Ce qui a fait hurler tout le monde, 66 ans. Oui, mais 66 ans, c'est pas l'âge légal, c'est l'âge de départ à taux plein pour ce jeune homme. Donc qui s'est planté? Ce sont les journalistes, ceux qui ont fustigé cette annonce. On a confondu âge de départ et âge à taux plein.
Finalement. Non, mais je dois dire que j'ai bien vu cette polémique. Et cette polémique, il y a eu 3 semaines pour faire un programme électoral. Je pense que tout ça a été quand même beaucoup bâclé, que les gens sont fatigués, que la précision sur un sujet comme celui-là n'est pas claire. Mais là, véritablement, quand on commence à travailler à 24 ans, de partir à 66 ans, ça ne me choque pas, ça me choque d'autant moins que s'il faut trouver des marges de manœuvre financières pour financer le fait que pour les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, on les fait partir plus tôt pour qu'il y ait une sorte d'égalité. Enfin, je vois pas de quoi hurler.
Surtout que si on travaille sur la base de 42 annuités, en effet, il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour ne pas être surpris par ce calcul.
La réforme Macron en cours, la réforme qui est toujours opérationnelle, ce jeune homme ne serait pas parti à 66, mais à 67 ans, tout le coup. Voilà.
Donc je vois vraiment pas. Enfin, j'ai beau le regarder dans tous les sens, je veux bien qu'on cherche des polémiques. Enfin, bon,
tout le monde a retenu 66 contre un âge légal aujourd'hui à 64. Ah, en fait, vous faites plus, ça n'avait rien à voir. On a confondu des choux et des carottes, là, finalement, dans cette histoire.
Je veux bien qu'on cherche des points à tout, mais là véritablement...
Les Français sont nuls en économie, c'est ce que ça veut dire.
Guillaume, peut-être qu'il fallait trouver un autre exemple si on voulait être pédagogue.
Bardella n'a pas su expliquer le truc derrière non plus, attention.
Si on voulait être pédagogue, peut-être qu'il fallait chercher un autre exemple que celui-là, mais quand on le regarde...
C'est trop simple.
Le parti a précisé aujourd'hui que, dans le cadre de la réforme Macron, cette personne partirait à la retraite à 67 ans.
Et oui,
C'est bien possible. Ouais. Après, parce que Alors moi, j'étais d'abord frappé hier que par le fait que certaines questions qui étaient sur des faits et des chiffres étaient assez contestables sur l'interprétation de ces chiffres. Alors, ça peut mettre en scène un débat, mais enfin, c'était quand même un petit peu problématique. Pour ce qui est des retraites, la difficulté, c'est qu'on est sur deux critères. On est sur un critère d'âge et on est en plus d'âge de début de carrière.
Ouais.
Et puis, d'autre part, sur un critère de contributivité, c'est-à-dire de nombre de trimestres.
Ouais.
Donc, du coup, ça, c'est pas clair et personne ne peut se retrouver là-dedans. Il y a plein de cas types possibles. La réforme ultime des retraites, c'est la réforme Macron. C'est celle, une réforme à points qui s'appelle en fait réforme en nombre de trimestres cotisés, avec une décote vers la fin pour empêcher les gens à la fois de perdre trop mais de partir trop tard. Et on en viendra là. Tant qu'on est entre les deux, entre un âge bas, un nombre de trimestres élevé, on va avoir des tas de cas types comme ça, sachant qu'aujourd'hui, le mur, comme Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, c'est 67 ans à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres.
Question, pourquoi il nous reparle d'âge pivot ? Je ne comprends pas.
Alors, sachant que, rappelez-vous, en 2020, il ne parlait pas d'âge pivot, il parlait d'âge pipo. Enfin, c'est terme, en tout cas.
Oui, mais
finalement, il les utilise aujourd'hui.
De dire, je reviens sur la réforme des retraites, c'est revenir à l'âge de 62 ans.
Pardon,
je pense que c'est peut-être un juste élément de langage.
Non, mais je vais vous dire, je pense principalement que la clé d'explication, c'est 3 semaines de préparation pour une élection qui est absolument majeure et un exercice comme celui-là dans lequel, c'est un exercice de posture.
Vous n'allez pas me dire que ça fait seulement 3 semaines qu'ils travaillent sur un programme législatif.
Non, mais pour un parti qui nous dit depuis Mathusalem qu'ils sont prêts à prendre les clés du pouvoir tout de suite, c'est vrai que c'est un peu fragile.
On peut faire le reproche aux trois, pardonnez-moi.
Ah non, mais on est tout à fait d'accord.
Mais aux trois, je veux dire, la densité programmatique des candidats par rapport à une élection aussi majeure que celle que nous avons, qui nous réunira tous dans les urnes dans 3 jours, c'est quand même pas... ce que l'on a entendu dans le débat n'est pas à la hauteur du tournant que l'on doit avoir
même pour, les gens
pour savoir où nous allons.
Excusez-moi, Léonidas, mais même pour les gens qui maîtrisent. La semaine dernière, on était quand même à la recherche de 20 milliards dans le budget de l'État. Là, selon les chiffrages, on est entre 4 et 25 milliards de dépenses supplémentaires. C'est quand même un peu... Et là, on ne peut pas dire que c'est pas c'est une absence de maîtrise du dossier et tout ça. On ne peut pas dire ça. Ouais. Parce que,
moi, j'avoue que j'ai arrivé... Alors, j'étais peut-être un peu victime du décalage horaire, mais bon, je m'attendais à quelque chose de relativement désastreux dans le débat, donc j'ai pas été déçu. C'est l'avantage, c'est qu'on peut pas être déçu quand on s'attend au pire. Bon, j'ai tenu 20-25 minutes en me donnant des claques, mais franchement, quand j'entendais Bompard parler, dire alors pour les PME, le SMIC à 1600, alors c'est pas acceptable, mais on va leur donner des emprunts à taux zéro. Mais j'avais envie de rentrer dans la télé, de l'exploser. Enfin, je suis désolé. Tu donnes un emprunt à quelqu'un pour payer des SMIC. Non, mais oui, mais à taux zéro, parce que tu vas pas le rembourser. Enfin, les types sont d'une incompétence crasse. Il y avait le pauvre Attal au milieu des deux qui avait finalement servi de punching ball aux deux qui l'entouraient. Et puis, Bardella et à eux deux, ils n'avaient même pas l'âge d'un président normal. Je veux dire, c'était une cour de récréation avec du nez qui coulait du nez.
Aux États-Unis.
Et à trois, il y en a pas. En calculant l'âge total des deux candidats, Bardella et Truc, on n'avait pas même le début d'expérience qu'il faut pour maîtriser un pays aussi complexe que la France. Enfin, c'était pitoyable. Et puis, c'était pas une vision, c'était pas un programme, c'était un catalogue de. Alors, combien je vais donner de bonbons à la future récréation ? Alors, toi, moi, je vais baisser la TVA.
Attendez, vous faites le fier à bras, mais on parlera tout à l'heure dans une vingtaine de minutes de ce qui vous attend chez vous aux États-Unis demain dans la nuit de jeudi à vendredi.
Là, ça va être grandiose.
À mon avis, ça sera pas triste non plus.
Il y aura des contrastes.
Non, mais attendez, on en parle. Il est 19h30.
Deux salles, deux ambiances.
Et surtout le handicap inverse, en fait.
On verra ça dans
300 ans d'expérience cumulée.
Il est 19h30 en attendant sur BFM Business. Je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc, le coup de théâtre dans le dossier Atos, on en parlait à l'instant. On a donc appris ce matin que le consortium mené par OnePoint et son patron David Layani se retirait de l'affaire, lui qui l'avait emporté il y a 3 semaines à la légale. Tous les regards convergent donc désormais vers Daniel Kretinsky qui pourrait donc revenir dans la course. Mais on va suivre ça évidemment jour après jour. En France, mauvaise nouvelle alors que les soldes ont officiellement commencé ce matin. L'INSEE nous dit que le moral des ménages a encore un peu flanché en juin. Il est descendu à 89 contre 90 en mai. On est de toute façon loin de la barre des 100 qui est la moyenne de long terme. Et puis elle n'aura pas fait long feu, comme on dit, la petite compagnie aérienne bretonne Céleste. qui avait été créé en 2021 pour assurer la liaison entre Brest et Paris-Orly, bah Céleste a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui, avant même, figurez-vous, d'avoir effectué son premier vol commercial. 19h32.
Bon, on revient dans un instant. Oui, avec un débat passionnant, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business. Décidément, les experts du soir sont dissipés. Bruno Coquet, Léonidas Calogéropoulos et Denis Jacquet sont avec nous. Et Guillaume Paul, évidemment. Donc, cette campagne des législatives, on continue de se replonger dans les programmes. Pour revenir un peu au programme du Rassemblement National, est-ce que vous diriez que ce programme passe un peu à côté de sa cible en faisant plus de gagnants du côté des plus nantis?
Bah, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Frédéric Bianchi, journaliste BFMBusiness.com, qui a publié ce matin sur le site BFM un très très beau papier qui nous dit que sur certaines mesures fiscales du programme économique de Jordan Bardella, du Rassemblement National, il y a beaucoup de mesures quand même qui vont bénéficier aux rentiers, aux héritiers notamment, aux ménages les plus aisés. Est-ce qu'on peut écouter ce que nous a dit notre ami Frédéric Bianchi?
On va l'écouter
dans un instant. Voilà, vous avez regardé, on vous a transmis ce papier aujourd'hui sur avant de préparer cette émission. On va écouter Frédéric, allez, et puis on en parle après. Frédéric Bianchi.
Certainement, les ménages modestes vont bénéficier aussi. Alors, on rappelle le programme, la mesure phare, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Donc, on rappelle carburant, électricité, gaz. Alors oui, les modestes en bénéficieront. Mais qui c'est qui va récupérer la plus grande part de ça?
La question, c'est
une question de justice sociale. Le RN, en baissant la TVA, arrose tout le monde. Et quand on arrose tout le monde, eh bien ceux qui ont les plus gros sauts, si je puis dire, c'est eux qui récupèrent le plus d'eau. C'est d'ailleurs ce que disait l'année dernière le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, qui disait que la baisse de la TVA sur ces produits-là, c'est un outil qui est ni efficace, ni équitable.
Alors, il parle effectivement de la baisse de la TVA, il parle de pas mal de mesures. Il parle aussi de l'impôt sur la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans qui est revenu dans le programme. Il dit que ça va bénéficier, en fin de compte, à 25% des plus aisés des moins de 30 ans, c'est-à-dire ceux qui sont issus des grandes écoles, qui sont dans la finance, qui sont dans les start-up, qui sont dans la tech, les joueurs de foot même.
Mais
fondamentalement,
foot, ouais.
Ça passe complètement à côté de la cible. C'est ça l'idée finalement.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Jordan Bardella avait manqué d'à-propos, puisque lorsque Gabriel Attal lui a dit « Mais en fait, cette réforme, elle va favoriser le jeune trader », il aurait dû lui dire « Mais le jeune trader, qui gagne très bien sa vie, il n'est plus à Paris depuis longtemps ».
Enfin, moi, j'ai quand même trouvé, en l'occurrence, vous parlez des jeunes entrepreneurs, je trouve qu'il n'y a pas, dans ces propositions, de propositions sur l'investissement, de propositions sur effectivement des fonds d'investissement qui pourraient être sur la retraite, des éléments un peu comparables à ce qu'il y a dans d'autres pays pour accompagner nos entreprises.
C'est pareil au Front Pop, hein, c'est pareil au Front Populaire, le Nidas, on est d'accord.
Je l'entends, mais justement, on parle des consommateurs, on parle des propriétaires avec les héritages, on parle, mais on n'a pas du tout une vision dynamique de l'économie. J'ai presque l'impression que on a quasiment pas parlé d'entreprise dans cette histoire.
Ouais. Le RN a quand même un programme libéral, je pense qu'il faut le dire. Enfin, c'est une politique de l'offre.
Je n'en ai pas. Mais lorsqu'on baisse la TVA, c'est principalement.
Non, mais la suppression
autour de la demande.
De la CVAE, les impôts de production, finalement,
supprimerait
bien la deuxième tranche.
Les impôts de production, là, vous avez raison, c'est effectivement une demande des entreprises, mais il n'y a pas véritablement de discours politique sur l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs, une France entreprenante. Enfin, on est surtout autour du pouvoir d'achat et des consommateurs, un certain nombre de règles fiscales, des points sur la transmission, mais pas de vision dynamique de l'économie. Enfin, je n'en ai pas du tout ressenti les éléments et les fibres, ou même la volonté d'afficher ce positionnement. Alors, vous avez raison, il y a un électorat, ils ont parlé de pouvoir d'achat, mais je ne vois pas où était la dynamique économique derrière leur programme.
Bruno Coquet.
Moi, je pense que c'est le prix de programmes mal fagotés dans l'urgence, fondamentalement.
Oui, donc
fondamentalement, vous avez raison.
C'est un manque de temps.
Que ce soit sur l'emploi, le chômage, les entreprises, etc. Il n'y a pas de mesures structurelles, fondamentalement. Après ça, le RN a repéré ce point que le taux de prélèvement obligatoire est très élevé en France et que, du coup, il propose une baisse de la fiscalité encore une fois, mal fagoté. Alors moi, je n'ai pas d'inquiétude sur l'exonération des moins de 30 ans.
Oui, mais ils vont mettre un plafond.
Elle sera plafonnée. Ouais. Ça me semble évident.
Ça passera pas le Conseil Constit, Bruno. Déjà, ça passera pas le Conseil Constit, déjà, pour commencer.
Non, mais ce sera plafonné. On fera une dépense fiscale. Je suis sûr qu'on peut écrire quelque chose là-dessus. Donc, ça, il n'y a pas de débat. Ça ne coûtera rien. Mais en revanche, la promesse sera remplie. Et les footballeurs paieront leurs impôts. Pas, et
donc,
les traders
en gros,
qui restent à Paris aussi.
Ça ne concernera pas grand monde, in fine.
Après ça, la baisse des impôts de production, c'est ce qu'avait prévu le gouvernement de toute façon. La baisse de la TVA sur les produits énergétiques, c'est la mesure pouvoir d'achat à très court terme. Vu qu'on ne fait pas de promesses à moyen terme, qu'on n'a pas regardé ce qu'on allait répondre à la Commission à Bruxelles pour l'équilibre dans le
programme de stabilisation. C'est spectaculairement désastreux tout de suite, ça.
Oui, on ne fait pas plus que le SMIC à 1600 euros. Enfin, c'est une mesure électoraliste.
Oui, sauf que quand même, le SMIC... Oui, pardon, allez-y.
On a quand même, quand même un truc, c'est qu'on a quand même l'essence la plus chère d'Europe, pratiquement. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a quand même un point à faire là. Alors, je ne sais pas si le mieux, c'est de baisser la TVA sur tous les produits énergétiques tout de suite, maintenant, etc. Mais quand même, il y a un point et qui est audible par l'électorat qui n'est pas à Paris avec une grosse voiture, quoi. Et donc, du coup, ça me semble logique par rapport que des programmes à 3 semaines qui sont confrontés à la nécessité d'afficher des mesures d'urgence produisent des choses de cette nature. Enfin, après ça, la solidité à moyen terme, ça, je suis
non, mais avec des visions quand même diamétralement différentes et opposées, puisque vous dites à l'instant que le RN a relevé ce point sur la fiscalité, sur le fait qu'on a les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés en Europe. C'est pas le cas du Front populaire qui lui dit, on augmente tout. Ça vous a pas échappé.
Ouais. Mais c'est clair. Ouais. Alors la faiblesse du Rassemblement national, c'est qu'il parle pas beaucoup des dépenses. C'est parce que si on réduit les recettes, il faut réduire les dépenses. De l'autre côté, on augmente les dépenses et on augmente les recettes, mais les de ce que je comprends, aussi, on crée du déficit quand même.
Ah
bah
oui. Et on abîme un peu la croissance. Ouais.
C'est difficile de chiffrer un changement de monde. Ouais. On n'est pas dans la continuité.
Denis Jacquet.
Non, en fait, pendant des années, alors ce qui est assez amusant, c'est que ça fait penser un peu à Mitterrand, qui a tendu le pouvoir pendant près de 40 ans, je pense. Oui. Donc tu dis, au bout de 40 ans, il a eu le temps de se préparer un peu. Bon, et là, il y a le Rassemblement National qui attend ça depuis peut-être encore plus. Jean-Marie Le Pen, sa fille, en fait, parce qu'en plus, je comprends qu'il protège l'héritage et la rente, parce que finalement, c'est une rente politique, hein, la famille Le Pen. Donc c'est quand même une transmission du pouvoir de père en fille. En nièce aussi, maintenant, ça se ramifie, c'est presque la famille Mullier, mais en moins efficace. Bon. Et donc, du coup, on a effectivement un parti qui était quand même, quand on regardait le programme du Front National, etc., c'était pour nous un programme économique marxiste-léniniste, enfin, à l'origine.
Rappelez-vous Le Pen en 2002.
C'était, quand on regardait en détail...
C'était nationalement de gauche, économiquement de droite,
un peu le contraire. Et donc, du coup, ça faisait peur. Et puis là, il s'aperçoit, mais zut, on est aux portes du pouvoir, on va peut-être être Premier ministre à 28 ans, à quelques semaines. Il faut qu'on dise, non, mais on a un programme économique où on connaît les entreprises, on sait comment ça marche. Tous ceux qui ont discuté 2 minutes avec Marine Le Pen, c'est que c'est pas ce que c'est qu'une entreprise. Bon, elle sait ce que c'est un héritage, mais pas une entreprise. Donc, du coup, ils y connaissent rien. Il n'y a pas vraiment de programme. Ils sont en train de chercher un ministre des Finances à l'extérieur parce qu'il n'y a même pas un de leurs membres qui soit capable de l'assumer. Enfin,
vous savez qu'il y a des marchés, vous savez qu'il y a des marchés à l'heure actuelle ou pas?
Non, je ne sais pas, il parle d'anciens banquiers.
Oui, c'est ça. Il y a quelques noms qui circulent.
Donc, je ne sais pas qu'ils ont trouvé exactement, mais.
Enfin, de toute façon, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, enfin, on sent bien que de toute façon, les candidats, ils ne sont pas tous d'accord.
Hein. Mais vous savez, au final, le plus désastreux dans tout ça, c'est pas tant que leur programme soit mal ficelé, c'est que c'est des gens qui sont en politique depuis très longtemps. Alors, Bardella, comme Attal, il y a 10 ans, il jouait encore aux billes, mais la plupart sont des gens qui sont quand même dans ce métier de la politique depuis 20, 30 ou 40 ans. Et qui arrive même pas avec une vision pour la France, même pas avec une vision pour l'Europe. Je parle pas de programme, moi, je parle de vision. C'est-à-dire, on est là aujourd'hui, où est-ce que vous voulez que je vous emmène demain? C'est quand même un tout petit peu ça qu'on attend des politiques, c'est-à-dire d'avoir une vision sur la société. Et là, c'est un catalogue de mesures avec des lumières qui brillent plus ou moins pour des segments marketing, Denis, et c'est tout.
C'est la loi du genre quand on a été pris par surprise d'une dissolution et que l'on court.
Oui, mais quand on se prépare à prendre le pouvoir un jour depuis des années, on a le temps d'avoir un programme.
Tous ces gens nous disent qu'ils préparent l'arrivée au pouvoir, leur arrivée de pouvoir depuis un certain temps.
Le métier d'un politicien.
Et Stanislas, normalement, le métier d'un politique, c'est quand même d'avoir une vision avant tout et pas d'avoir un programme.
Vous achetez une expression, je crois que c'est Nicolas Dos qui avait cette expression qui disait avec le programme du Front Populaire, alors qu'il veut agir très très vite par décret sur pas mal de mesures. Mmh. On met le pays à feu et à sang économiquement auprès des marchés financiers en 3 jours. Avec le Rassemblement National, ça serait du 3 mois. Mais le résultat serait le même fondamentalement sur la durée. Vous achetez ça ou pas ?
Je pense que les marchés financiers et que l'ensemble de notre environnement, notre écosystème, si je puis dire, financier, européen, boursier, retient son souffle. Et que... Alors, probablement, du côté du Rassemblement National, il y a la conscience d'inquiéter et la volonté d'apaiser. Je pense que...
Oui, c'est ça, parce qu'ils ont un vrai message à destination des entreprises, des entrepreneurs, qui se veulent plutôt rassurants.
Se veut rassurant, contrairement au Front Populaire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, on regardera les comptes publics, on ne va pas faire n'importe quoi,
voilà.
Et qui est dans la droite ligne de tout ce qu'ils ont pu faire depuis 3 ans pour essayer de rassurer et d'être finalement l'incarnation de la force tranquille qui vient de la droite, comme la force tranquille
venait de Giorgia Meloni.
Sur le mal de Meloni, sauf que ça ne rassure qu'une frange du patronat, attention, vous voyez, ça rassure les petits patrons essentiellement, du côté de la MEDEF, du MEDEF et de la CPME. On n'est pas vraiment sorti du bois, mais on a bien sorti dans les quelques crises de
peur. Il y aura toujours plus que l'extrême gauche.
Les milieux économiques sont entre le pire et le bien pire. Mais il n'y a rien qui oriente vers le bien. Hein, donc,
Oui, mais il s'abrite quand même derrière la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes, ça rassure un peu les marchés, ça rassure un peu Bruxelles quand même. Et donc, du coup, en donnant du temps là-dessus. Et donc, ce que ne fait pas le nouveau Fonds populaire. Il ne s'abrite pas derrière un audit des comptes. Vu ce qu'on disait du budget jusqu'à présent, quand même...
Oui, il y a, du côté du Rassemblement National, la volonté de dire on va apaiser, rester calme, on ne va pas faire n'importe quoi, alors que, à l'évidence, ce n'est pas du tout une préoccupation que l'on voit du côté du Front Populaire.
Pourtant, le nouveau Front Populaire compte dans ses rangs, Esther Duflo, l'ancienne prix Nobel d'économie. Alors peut-être qu'elle a lu un peu trop le programme entre les lignes.
Je ne me ferai pas opérer de l'appendicite par un prix Nobel de médecine. C'est toujours ça.
Ah oui, ben voilà. Oui, c'est ça.
Il y a un moment donné, chacun son métier.
La théorie a ses limites.
Respect, franchement, Esther Duflo.
Quand on voit que le lendemain, Mélenchon a trouvé que Bompard était très bon, il faut considérer que c'était vraiment une catastrophe
et puis,
pour la nation.
Il faut aussi se souvenir qu'il y a eu 83 après 81, mais que le programme de 81 avait été porté par beaucoup d'économistes. Ouais. On n'est pas forcément obligé de faire les erreurs tout le temps.
Vous avez raison.
Jean Tirole n'est pas d'accord avec Esther Duflo. Donc
ah ben voilà, comme
on a deux prix Nobel.
Voilà. On dit qu'il y a des frictions.
Ah comme quoi, le candidat
Ça va être trop qui la revanche.
Ne définit pas pour autant la ligne qu'on poursuit.
Quelques minutes avant vos avis pour dire ah oui, alors Denis Jacquet qui faisait le malin en se moquant de les politiques. Mais rappelons que dans un peu plus de 24 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous en France, il y a ce fameux débat entre Trump et Biden. Alors, sur CNN, mais alors déjà, on voit pas ça d'habitude dans les campagnes présidentielles américaines. Il y a 3 débats à la rentrée avant l'élection de novembre. Là, pourquoi est-ce qu'il y a un débat d'entrée de jeu?
Je suis très étonné, effectivement, que Biden ait accepté de participer
Trump qui a proposé
à
ça,
débat, parce que d'abord, tout le Parti démocrate et tous leurs relais ont fait en sorte qu'il ait un maximum de procès en espérant qu'il soit empêché de se présenter. Donc, le fait de lui faire le cadeau de ce débat, c'est en fait lui dire, ok, t'es dans la course, on a compris, je suis là. Enfin, c'est une espèce de reconnaissance d'impuissance à arrêter le bulldozer qui est quand même assez impressionnante. Et puis le deuxième, c'est surtout que, ou alors, il y a une éclaircie dans la santé de Biden. Ils se sont dit, là, il faut en profiter, il est en forme, il va tenir 1h30. Parce que la vraie problématique avec Biden, c'est qu'il y a rien n'empêche en plein milieu du débat qu'il appelle Trump maman. Enfin, je veux dire, au niveau des facultés cognitives de Biden, on sait tous, sans se moquer trop, qu'elles sont quand même hyper diminuées. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, le gars va être, comme Elvis Presley avant ses concerts, picousé à mort pour tenir tout le débat. Mais aller se mettre face à un punching ball comme ça, en face de Trump, qui est en pleine forme, au sommet de sa forme, qui s'arrête s'arrête sur rien, ça peut pas être une bonne chose pour Biden.
Il a lui aussi eu quelques petits trous de mémoire.
On est quand même plus proche de la maison de retraite que de la carrière politique à long terme.
Mais Biden n'a pas le choix parce qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à renverser la vapeur dans les sondages. Il faut qu'il y aille. Voilà.
Est-ce que c'est ça?
Parce qu'il y a aussi une rumeur qui court qui dit que Clinton et Barack Obama ont dans leur poche une liste de candidats qui seraient prêts à remplacer Joe Biden si en effet son état de santé ne lui permettait plus de continuer. Est-ce que c'est pas un test en fait pour voir si justement il est encore vaillant ou pas?
Ils savent quand même depuis déjà plusieurs années dans quel état il est, donc c'est quand même pas vraiment une surprise. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on puisse penser dans son état de se représenter comme président. Alors évidemment, il a toute cette aura d'avoir été vice-président, président, donc on se dit que c'est le meilleur candidat comme rempart face à Trump. Enfin, Trump, c'est une bête de scène, je veux dire, c'est pas un débat qui va changer la vie des gens.
En tous les cas,
les débats ne sont quand même pas l'endroit où se passe une élection.
Il y aura quand même trois débats à l'automne avant l'élection, malgré tout.
Non, simplement, polarisé. Je trouve qu'entre le débat qu'on vient de commenter, les trois jeunes gens qui étaient
l'exact inverse,
et là,
les deux quasi retraités
qui vont débattre aux États-Unis, la crise de la démocratie est une crise absolument majeure et sur tous les continents. C'est quand même très problématique, alors que à l'échelle mondiale, on a d'autres modèles que la démocratie qui sont nos compétiteurs pressés de nous déstabiliser. Et je trouve qu'il y a là une question qui se pose sur ce que la démocratie peut nous amener et comme mode de gestion du collectif. Deux éléments qui montrent la profondeur de la crise.
Juste en deux mots, ce qui s'est passé, c'est que Trump a polarisé comme jamais aucun président avant la politique américaine. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des consensus, il y avait des compromis, on pouvait se parler sans se taper dessus. Trump a fait exploser ça. Macron l'a fait d'une autre façon, hein, en tournant la droite et la gauche, il a extrémisé la France. Enfin, je veux dire, ce qu'on retiendra de Macron dans 20 ans dans les livres d'histoire, c'est que c'est un assassinat de la politique française.
Contrairement à la promesse initiale.
Mais il l'a fait avec élégance, comme le font les énarques, etc., alors que Trump l'a fait comme un sagouin qu'on l'accuse d'être ce qu'il est en partie. Mais ce qui s'est passé avec la polarisation, c'est que le monde des médias s'est polarisé en même temps. Tout à coup, CNN est parti d'un côté, le Washington Post, le New York Times, et puis de l'autre côté, Fox, etc. Et tout à coup, la machine est articulée autour de deux personnes et non plus autour de deux camps. Ouais. Donc du coup, sans Trump, il n'y a plus de polarisation et les médias sont plus polarisés. Donc ça ne pouvait pas être un autre débat que ces deux
personnes. Bruno Coquet, est-ce que ça vous inquiète? Parce que le FMI vient juste de rappeler que les incertitudes justement sur la politique américaine ont un impact évidemment négatif sur les taux d'intérêt long terme dans tous les pays du monde.
Bien sûr.
Oui, évidemment, de ce point de vue-là, ça crée une incertitude, surtout qu'il y a un fort déficit budgétaire, une dette qui s'est beaucoup accru, donc c'était quand même extrêmement expansionniste, les États-Unis. Il y a des tensions extrêmement fortes avec la Chine. Moi, c'est dans la manière de gouverner quand même Trump-Biden. Biden, il délègue d'une certaine manière, c'est-à-dire chacun...
Alors, a-t-il le choix?
Il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, mais quand même, il le fait. Je crois que Trump, il n'a pas le choix non plus, mais il ne le fait pas. Ouais. Et donc, moi, de toute façon, l'un comme l'autre, quand j'étais étudiant, je me rappelle, dans les journaux, on parlait de Giron du Kremlin. Mais c'était quelques années avant que ça s'effondre. Là, c'est les Giron de Washington. Hein, donc, Et donc, du coup, moi, c'est ça que je trouve assez inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas un renouvellement du personnel politique qui fasse confiance aux institutions. Trump, quand même, c'est la défiance face aux institutions est très inquiétante.
Voilà pour ce débat, donc, dans la nuit pour nous de jeudi à vendredi. On va se régaler, évidemment. On va être peut-être nombreux à regarder ça, effectivement. Alors, j'ai vu que... c'est CNN qui organise, hein. Quand l'un parle, le micro de l'autre est coupé. Donc, on ne va pas partir dans les aigus.
Parce qu'il suffit pas alors, la commission...
Non, mais en même temps, pourquoi? Parce que le débat Trump-Biden en 2020, Trump a coupé la parole plus de 70 fois à Joe Biden. Voilà, donc, c'était infernal et c'était la cacophonie.
On suivra ça, évidemment. Les 3 minutes à peine pour l'extra time. Vos avis du soir, vos humeurs, coup de gueule ou coup de gueule sur 30 secondes. C'est la règle impitoyable. Qui va commencer? Léonidas, tiens, allez-y.
Eh bien, volontiers, pour vous dire...
Il a l'air en forme, là, Stan.
Léonidas.
Là, Stan, je vois pourquoi.
Un coup de cœur passionné pour mon pays, pour notre pays, pour la France qui va accueillir les Jeux Olympiques, qui assiste au spectacle des institutions totalement bouleversées et pourtant qui est en train de travailler pour que ces Jeux Olympiques soient prêts, pour que nous soyons capables d'accueillir le monde entier. tout avance. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point Paris est en train de se métamorphoser sous nos yeux. Et ça marche. Oui, et on sera prêt. Et ça, c'est le miracle parisien, le miracle français, surtout. C'est la capacité à avoir traversé l'histoire avec toute l'agitation politique que nous connaissons. Et le pays tient. Et bien, c'est un pays formidable.
Voilà qui réenchante ce plateau.
Voilà.
Bruno Coquet.
Ah, moi, je voudrais rendre hommage au grand aspirateur du débat d'hier soir, c'est Yanis Varoufakis. Votre ministre des Finances grec qui proposait quand même de changer de monde. Et tout ça s'est quand même écroulé sur le mur des réalités de la zone euro, du marché, du spread de taux. Et donc, du coup, je pense que quand même des programmes mal fagotés peuvent nous mener là assez vite et qu'au bout du compte, c'est ça qui permettra de contrôler l'ensemble. Quel que soit le résultat, c'est que bah, aujourd'hui, contrairement à 1980, il y a des marchés financiers.
Oui,
la dure réalité des marchés financiers. Denis.
Moi, je reste sur ma vision, c'est-à-dire que quand on voit dans un débat deux personnes de 28-30 ans qui n'ont pas prononcé une seule fois le mot d'intelligence artificielle qui est en train de façonner le monde, de donner le pouvoir à la Chine qui est investie aux États-Unis, et de voir que c'est même pas un sujet de conversation de 30 secondes d'un débat qui est juste l'enjeu du siècle et l'enjeu du déclin de l'Europe face au reste du monde. Ça m'a et comme du coup je crois que je l'ai fait très vite et qu'il me reste un truc, ma fille m'a dit regarde sous la Seine, c'est un super film, Hidalgo est bouffé par le requin. J'ai trouvé ça fantastique.
Ça peut se terminer pas comme ça,
mais c'est le vrai défi de la démocratie. Il est là, avoir deux heures de débat sans que le sujet majeur soit abordé.
Mais
démocratie,
c'est le temps politique, ça, Léonidas. Mais je suis d'accord avec vous que c'est dommage.
Alors
c'est
là on n'a plus le temps de ne pas être d'accord puisque le débat est terminé.
Le temps politique,
c'est beau, ce rouge. J'espère que ça ne préfigure pas les élections.
Merci à tous les trois, Denis Jacquet, Bruno Coquet, Léonidas Kalogiropoulos. À très vite, messieurs, pour nouvelles aventures. C'est fini.
C'est terminé, c'est passé beaucoup trop vite, évidemment, mais bien sûr, on peut revoir ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Vraiment, bien sûr, demain soir, 18h-20h, pour nouvelles aventures. Dans un instant, Tekkenco, François Sorel, toute l'équipe. Bonne soirée.
À demain.